déroulé de la conférence. Juste en quelques mots, donc, pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on est réunis ce soir dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides. Donc, c'est une manifestation internationale qui a lieu chaque année le 2 février et dans laquelle nous, c'est la communauté d'agglomération Grand Poitiers, donc, qui organise cette manifestation ce soir. On s'est investi dans cette manifestation depuis 2 ans. Donc l'année dernière, on a déjà fait une conférence, sachant que le thème change chaque année. Donc si vous êtes déjà venu l'année dernière, vous n'aurez pas les mêmes conférenciers ce soir, pas le même diaporama. Je me présente juste en quelques mots, puis je vous explique ce qu'on fait nous au sein de l'agglomération. Gaëlle Moreau, donc, je suis technicienne milieu naturel de Grand Poitiers, et on travaille donc sur les zones humides. Pardon. Si le diaporama marche. Voilà. On a regroupé un certain nombre de zones humides au sein d'un espace qui s'appelle le parc naturel urbain. Donc je vous le montre simplement pour avoir une vision un petit peu d'ensemble sur le territoire de l'agglomération. Ce sont tous les espaces qui sont notés ici en vert fluo. Donc vous voyez qu'ils sont un petit peu dispersés sur toutes les communes de l'agglomération. Ça regroupe au total 400 hectares. Voilà. Donc ce sont des espaces qui appartiennent soit aux collectivités, soit aux communes, soit à l'agglomération, et qui sont préservés, qui sont gérés dans un objectif de protection de la biodiversité. Donc la majorité sont des zones humides. Alors cette protection, ce statut, ces espaces permettent de protéger à la fois des espèces patrimoniales, donc comme ici la fritillaire pintade, ou aussi des espèces qui sont plus communes mais dont les habitats disparaissent. Donc c'est le cas sur des vieux arbres morts, des chandelles qui sont souvent coupées, soit dans les jardins, soit aussi dans les forêts. Donc nous, on les conserve à partir du moment où ils ne posent pas de problème de sécurité. On conserve aussi donc un certain nombre de paysages, d'habitats, de milieux naturels qui sont très variés. Donc vous aurez l'occasion de reparler, je pense, des milieux naturels après, en bord de cours d'eau. Et aussi donc des patrimoines un petit peu bâtis, ou en tout cas un patrimoine historique, donc avec des vieux ponts, des moulins, des anciens lavoirs, donc qui sont conservés finalement dans le cadre du parc naturel urbain. Donc voilà ce qui est fait au sein de l'agglomération. Et l'ensemble de ces espaces sont visités régulièrement lors de sorties nature. Donc si vous êtes intéressé pour participer à des sorties nature sur le territoire de l'agglomération, je pourrais faire passer donc une petite fiche de présence, entre guillemets. Vous pourrez noter votre adresse mail et régulièrement vous recevrez une liste en fait des sorties nature avec les jours, les horaires de présence. Donc voilà juste pour une introduction en quelques mots sur ce qu'on fait au sein de l'agglomération. Je vous laisse donc en compagnie donc de deux conférenciers qui vont se succéder pour nous parler de la richesse des déboisements humides en bord de cours d'eau et puis de deux espèces emblématiques qui vivent dans ces milieux, donc la loutre et le castor. Donc je vous laisse vous présenter. Vous le ferez mieux que moi, je pense. Ouais. Donc Alain Pertuis qui commence.
Bonjour. Donc moi, je suis forestier et écologue de métier. Je travaille comme... J'exerce les fonctions d'ingénieur environnement au Centre régional de la propriété forestière, après avoir travaillé pas mal d'années au Conservatoire d'espace naturel. On rappellera des souvenirs à Yves Baron. Et on travaille beaucoup, nous, en tant que forestiers. Vous rappelez qu'il y a une administration autrefois qui s'appelait l'administration des eaux et forêts, qui est devenue l'Office fédéral des forêts. C'est un petit peu dommage qu'on ait perdu ce sigle-là. Merci. Et donc ça, c'est pour ce qui concerne les forêts domaniales. Le CRPF s'occupe des forêts privées, qui représentent en Poitou-Charentes quand même 90% des forêts. Et depuis quelques années, on travaille beaucoup sur la thématique de l'eau et de la forêt pour réhabiliter un petit peu cette complémentarité-là, étant donné que c'est ce que je vais aborder un petit peu dans ma présentation. Ensuite, on aura un temps d'échange. Pour nous, la forêt, les boisements sont la meilleure usine naturelle à dépolluer l'eau. Infiniment moins cher que tout un tas d'autres techniques portées depuis quelques temps par des grandes sociétés. Et on verra que cette fonction de protection de l'eau est complétée par, bien évidemment, une fonction biologique extrêmement importante. On verra dans quel cadre et comment on peut faire pour gérer ces forêts-là. Voilà, donc ça se situe. J'en profite pour remercier à la fois Mendès France et Gaëlle Moreau d'avoir eu l'idée d'organiser cette soirée-là avec nous. Parce que je crois qu'elle fait un gros boulot et il y a des zones humides, il y a des forêts, y compris dans une communauté d'agglomération. Et juste à côté de la ville de Poitiers, on peut être en 5 minutes du centre-ville de Poitiers au bord de l'eau sur des répisylves. Donc on verra comment fonctionnent ces milieux-là, quelle est leur importance, quelles sont les problématiques aussi. Il y a des problèmes, il ne faudra pas non plus les éviter. Je dis toujours, alors vous me pardonnerez un très très mauvais jeu de mots, mais c'est vrai qu'en fonction du changement climatique, parler demain d'eau tarie n'est pas forcément loufoque, d'où le mauvais jeu de mots. mais on verra qu'on a des problèmes d'alimentation en eau, etc. On verra pourquoi la forêt et les boisements peuvent jouer un rôle, doivent jouer un rôle par rapport à cette quantité, à cette qualité d'eau.
Bonsoir, Gérard Ruven, je suis ingénieur à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Je vais intervenir avec Sylvain. On a cherché le lien avec le thème qui était l'eau et la forêt. Et comme nous, on s'occupe plus particulièrement de la faune sauvage, eh bien, on a choisi deux espèces emblématiques de l'eau et du bois, la loutre et le castor. Donc, tout à l'heure, je vous présenterai un petit peu mieux cet établissement public qui s'occupe de la faune, qui est assez mal connu. Et puis après, rapidement, je passerai le relais à mon collègue qui, lui, vous parlera plus particulièrement des deux espèces que vous voyez là.
Alors bonsoir, effectivement, il y a déjà une petite introduction. Donc je m'appelle Sylvain Richier, j'ai été chargé pendant plusieurs années de coordonner le réseau mammifère du bassin de la Loire dans le cadre du plan Loire, avec une vocation notamment de suivi des espèces, castors et loutres. Donc je vais vous parler du retour de ces espèces. Beaucoup de gens se posent des questions. Elles n'étaient pas là forcément avant, donc il y a toute une histoire sur leur retour. Quelques éléments de biologie pour qu'on ait un petit peu une culture commune sur le sujet. On verra les différentes problématiques que pose leur retour, à la fois pour leur conservation et vis-à-vis des activités humaines. Et puis je vous parlerai de quelque chose après qui au premier abord est parfois moins intéressant, mais c'est toute l'organisation humaine qui se met en place dans le cadre d'un réseau de suivi avec tout un tas d'acteurs et qui est nous, notre quotidien en tant qu'ingénieur de l'ONCFS. Voilà. Et puis ensuite, on pourra échanger sur les deux espèces naturalisées que vous avez ici. Je ne rentrerai pas dans le détail de la biologie, ce n'était pas forcément l'objectif, mais on reste à disposition pour les questions ou après la conférence si vous avez des questions particulières sur les animaux présentés ici. Voilà.
Ok, bah vous voyez que les eaux du mythe, ça relie, hein, puisque vous avez sur la même tribune des représentants du monde de la forêt, de l'écologie et de la chasse. Génial, donc on est dans la complémentarité. On va aborder tout de suite un petit peu le montage sur donc, la forêt, l'arbre et l'eau, puisque ce sont des éléments donc, qui, encore une fois, sont... Alors, attendez, voir un diaporama visionné. À gauche, à partir du début. Il faut s'habituer aux ordinateurs qui diffèrent un petit peu. Voilà, bon, je vais me mettre dans un petit coin, et puis ensuite on va essayer de faire la chose, vous me dites si je vous gêne, avec deux exemples d'ailleurs assez amusants, puisque vous avez sur la partie gauche une ripisylve qui se situe peu importe où, hein, elle se situe en Charente, celle-ci, mais avec la végétation typique des bords de rivière, l'aulne, le frêne notamment, les saules, les chênes aussi, contrairement à ce qu'on peut penser, on a des chênes aussi en ripisylve, notamment le chêne pédonculé. Donc ça, c'est une ripisylve véritablement naturelle. Et puis une ripisylve d'un modèle tout à fait différent, puisque là, vous avez là un platane, donc ce n'est pas un arbre indigène de nos régions, mais on le trouve de temps en temps. Il a parfois été planté en raison de son aspect dit décoratif. Il pose d'autres problèmes, puisqu'il y a des chutes de feuilles très abondantes avec cet arbre-là dans l'eau. Mais vous voyez que bon, les différents aspects de la ripisylve, ça dépend de pas mal de choses. Alors, on part d'un constat rapide, parce que je ne veux pas revenir sur la situation de l'eau en Poitou-Charentes, ça peut faire l'objet d'autres débats. On a un réseau hydrographique qui est très important sur la région Poitou-Charentes, 17 000 km au total, avec depuis plusieurs années un problème global, des constatations. J'enfonce peut-être là une porte ouverte, mais vous en avez tous entendu parler. Un problème de manque d'eau dû à un certain nombre de phénomènes, dont l'irrigation agricole est un des exemples souvent avancés. On a des problèmes aussi d'assèchement de sol ou de rétractation de sol argileux qui peuvent parfois faire disparaître le niveau des sources, etc. Et quand on n'a plus de végétation, eh bien, les nappes phréatiques ont de moins en moins de possibilités de se recharger, puisqu'on va le voir dans le cycle de l'eau, la forêt, l'arbre, etc., joue un rôle extrêmement important par rapport au maintien donc, du niveau de ces nappes phréatiques. Donc l'eau est menacée depuis quelques années, 200 captages d'eau potable fermés en Poitou-Charentes, hein, et avec des solutions avancées qui sont très souvent très onéreuses et voire aléatoires pour certaines. Dans certains nombres de communes, pour avoir de l'eau potable, dit potable au robinet, on en est à mélanger différents captages pour avoir des taux de nitrate, par exemple, satisfaisants, encore que les normes françaises soient plus généreuses que les normes qu'on trouve dans d'autres pays que le nôtre. Donc on va voir en quoi les arbres et les boisements jouent un rôle essentiel par rapport à cette thématique de l'eau.
Juste pour illustration, 2010, il y a eu, je crois, 1800 km de rivières à sec en Poitou-Charentes, ce qui pose aussi des problèmes, d'ailleurs, là où subsistent des ripisylves. Voilà un bon exemple de rivière que l'on peut trouver, une petite rivière que l'on trouve en forêt. Il est évident que lorsqu'on mesure, par exemple, la qualité d'eau de cette rivière-là, lorsqu'elle est passée à travers le massif forestier, on aura une eau qui sera de bien meilleure qualité que la même eau venant ou allant dans un milieu agricole. Là, la forêt joue pleinement son rôle de filtration de l'eau, en même temps qu'elle va jouer un rôle vis-à-vis des espèces animales ou végétales que l'on peut trouver là. Donc, on a relativement pas mal de ce type de milieu-là. On est là sur un milieu qui est prioritaire au sens de la directive Habitat, Natura 2000, avec des contextes d'Aulnay-Fresnay, par exemple, qui sont considérés comme en voie de disparition, voie de raréfaction dans pas mal de régions françaises. Sur Poitou-Charentes, on n'a pas les plus belles Aulnay-Fresnay. Les gens qui viennent de l'Est, par exemple, en connaissent de beaucoup plus fonctionnels que les nôtres. Mais quand on a des choses comme ça, on n'est quand même pas mécontent, quoi. Malheureusement, ce genre de milieu-là a tendance à régresser. On va voir pourquoi. Donc ça, c'est une usine extraordinaire, naturelle, à dépolluer l'eau. Je vous passe rapidement sur le cycle de l'eau en forêt. Il est évident que quand vous avez un peuplement forestier, une forêt, un boisement, l'arbre, c'est un être vivant. Donc, il transpire, il respire, donc il intercepte l'eau. Et en forêt, d'une manière générale, quand vous avez un massif forestier de plus ou moins grande étendue, on s'aperçoit qu'il y a toujours une amélioration au niveau de la quantité d'eau, au niveau de la quantité de pluie qu'il va y avoir là. Les arbres transpirent, l'évaporation des arbres, la transpiration des arbres, l'évaporation du sol, etc., ce qu'on appelle l'ETP, évapotranspiration potentielle. Ça fait en sorte qu'au-dessus d'un massif forestier, vous avez un dégagement de vapeur d'eau qui, même si elle est un gaz à effet de serre, contribue à former des nuages lorsqu'elle se condense dans l'atmosphère, etc. On a un cercle, si vous voulez, relativement vertueux sur des régions forestières. Là où il y a de la forêt, il pleut un petit peu plus, et là où il pleut, l'eau s'infiltre d'une manière relativement satisfaisante dans le sol, même si une partie est retenue, évidemment, par les arbres pour pouvoir vivre. Donc on a, là vous avez illustré, bon, ce sont des résineux, c'est pas le meilleur exemple en matière de qualité d'eau. Le feuillu est préférable parce qu'on n'a pas de problème d'acidification des sols. C'est simplement pour vous expliquer les relations très étroites entre l'arbre, la forêt et l'eau. D'où l'ancien nom, encore une fois, de l'Office national des forêts. Alors on peut faire des choses très compliquées quand on parle de l'eau. Quelques chiffres simplement que vous pourrez retenir. Au niveau de la forêt, c'est certain que le premier rôle de l'arbre, c'est d'intercepter la précipitation. On a beaucoup reboisé dans les terrains autrefois, à la fin du 19e, dévastés par les activités humaines. On a beaucoup reboisé pour maintenir les sols, pour éviter les problèmes d'érosion. C'est le premier rôle à laquelle on pense. La forêt, c'est un manteau vivant, ça protège le sol, etc. Et on constate que il peut y avoir des quantités d'eau absolument étonnantes qui sont retenues en forêt. Même si, encore une fois, un arbre adulte peut consommer une centaine de litres d'eau par jour, quand il est en peuplement, quand il est en massif forestier, l'écosystème a un rôle extrêmement positif. Notamment, le sol, c'est quelque chose de primordial en forêt, pas seulement pour que les arbres puissent pousser, etc. Encore une fois, avec la présence de l'humus, d'une litière suffisamment importante et qui est beaucoup plus favorable en milieu de feuillu qu'en milieu de résineux, une litière peut absorber entre 5 et 9 fois son poids d'eau. Ça, c'est un rôle d'éponge absolument considérable. Et si vous regardez hypothétiquement, si vous imaginez une couche, une épaisseur de mousse de 10 cm, on n'a jamais ça dans nos forêts, on a ça plutôt dans les forêts boréales, où on peut marcher sur des couches de mousse très épaisses sur des hectares. Mais retenez simplement ça, un hectare de mousse d'une épaisseur de 10 cm pourrait retenir jusqu'à 460 mètres cubes d'eau. Donc c'est quelque chose de considérable. Ce rôle d'éponge, il est absolument vital. Quand on sait aussi que via la rhizosphère, l'ensemble des racines qui sont présentes dans le sol, l'arbre favorise l'infiltration de l'eau. L'eau va rentrer dans le sol, une partie de cette eau va être observée par les racines, une partie va pouvoir s'infiltrer dans l'eau et rejoindre la nappe phréatique. Vous avez à peu près 100 km de racines dans une forêt par mètre cube de terre. C'est aussi quelque chose d'absolument considérable. Donc vous avez en même temps, ces racines créent ce qu'on appelle la micro ou la macro capillarité. dans le sol. Hein, elles ouvrent le sol, elles ouvrent des galeries, etc. L'eau va s'infiltrer le long de ces galeries-là et on a sur les 10 premiers centimètres, encore une fois, d'un sol forestier, là, qui est de la mousse ou pas douce, ou pas de mousse, ça peut retenir par mètre carré jusqu'à 50 litres d'eau. Hein, on pourrait citer une quantité de chiffres, mais simplement pour que on situe un petit peu mieux le rôle important de cette forêt par rapport, encore une fois, au cycle de l'eau. Alors, il y a des arbres qui consomment plus d'eau que d'autres, hein, évidemment. On a souvent parlé du rôle des peupliers et de leur impact par rapport au milieu naturel. On pourrait citer le platane dont je parlais tout à l'heure, ou le Douglas aussi, qui consomme beaucoup d'eau. C'est une problématique aussi. On ne peut pas non plus se permettre de trop jouer avec la nature des écosystèmes si on veut que ce rôle par rapport à l'eau continue de s'exercer. Alors, le rôle le plus important, nous, qu'on met en avant et qu'on essaie de mettre en avant depuis quelques années, alors on travaille avec la ville de Poitiers, on pourra en reparler, on travaille avec d'autres grandes villes sur Poitou-Charentes, c'est le rôle de la forêt par rapport à la qualité. La quantité, c'est une chose, la qualité, c'est encore plus important. Je vous ai parlé tout à l'heure des 200 captages qui ont été fermés depuis quelques années. On s'est aperçu que, alors là, on parle des ripisylves aussi bien que de la forêt au sens strict. Les ripisylves, c'est les formations végétales qu'on trouve au bord des cours d'eau, hein, formations riveraines le long des cours d'eau qui sont plus ou moins larges. Malheureusement, elles ont tendance à devenir de moins en moins larges. Disons que pour qu'une ripisylve soit efficace en termes de filtration des éléments polluants venant par exemple du monde agricole, c'est toujours celui qui vient à l'idée en premier, bien sûr, dans le monde rural. C'est pas pour accuser systématiquement les agriculteurs, mais le fait est là. Hein, la plupart des polluants qu'on retrouve dans les nappes phréatiques sont des polluants qui viennent de l'utilisation agricole des sols. Nitrates, pesticides, et vous avez tous entendu parler du taux de contamination des rivières. Plus de 90% des rivières françaises sont polluées par des produits phytosanitaires. Il n'y a pas que les nitrates. Une ripisylve suffisamment large, alors il y a des discussions aussi, mettons une trentaine de mètres de large pour l'idéal, ça peut filtrer pratiquement 95-98% des polluants. Le problème, c'est qu'une ripisylve de 30 mètres de large, ça se trouve de moins en moins, bien évidemment, parce qu'il y a une concurrence pour l'occupation des sols entre notamment l'agriculture et ses formations végétales. Ça peut être aussi d'autres problématiques. À l'heure actuelle, on a la ligne LGV Poitiers-Limoges, aussi bien que celle de Poitiers-Bordeaux, qui va passer dans un certain nombre de vallées alluviales avec des ripisylves encore relativement riches, je pense à la vallée de la Charente notamment, ça va nous poser des problèmes de fragmentation des dernières ripisylves qui restent. Et comme par hasard, d'ailleurs, c'est des ripisylves qui abritent souvent encore la loutre. Et puis peut-être, pour ce qui concerne la ripisylve Poitiers-Limoges, enfin la ligne Poitiers-Limoges, par contre, c'est le castor aussi, hein, puisqu'il est présent en Vienne, on en parlera tout à l'heure. Pour revenir donc sur ce rôle, on va essayer de comprendre un petit peu comment ça peut se passer. Retenez un petit peu ces chiffres-là. Idéalement, une ripisylve de 30 mètres de large permettrait de nous protéger de la plupart des éléments polluants et d'une manière totalement gratuite, hein, puisque la forêt, elle est en place, c'est quand même important. Alors, les MES, n'ayez pas peur, hein, c'est les matières en suspension, tout simplement. Qui combattent le fond des rivières, etc. Il n'y a pas que un rôle vis-à-vis des éléments chimiques. Hein, en limitant le ruissellement, le ravinement par l'eau de pluie, la végétation permet d'éviter un apport de matière organique en suspension dans l'eau. Et les pêcheurs et les gens de l'ONEMA savent bien qu'on parle de pollution, hein, organique. Quand vous avez, à la suite d'un orage, de grandes quantités de matières fines, d'éléments fins qui arrivent dans la rivière, ça peut colmater les ouïes des poissons. Ça peut se mettre sur la nourriture des poissons, c'est aussi un élément problématique. Si on a gardé un couvert végétal suffisamment important le long des rivières, on peut empêcher cette pollution par les matières organiques en suspension. Les éléments fins, ça peut être simplement de la terre, hein, mais ça peut polluer aussi. Donc la charge en nitrate, on en a parlé tout à l'heure, c'est quelque chose d'important. Hein. Donc ce sont des pièges à polluants, hein, les zones humides arborées sont des véritables pièges à polluants. On verra que certains végétaux, là j'ai cité simplement des roseaux, des joncs, etc., mais je pourrais citer l'aulne et le frêne, ils ont la même utilité. Ça peut stocker le cuivre, le zinc, le phosphore et des phytosanitaires, donc c'est quand même aussi des éléments extrêmement importants. Voilà, donc l'épuration inspirée de la nature, les saules et les aulnes notamment, jouent un rôle, ça s'appelle ça la phytoremédiation, c'est-à-dire la capacité qu'a la végétation naturelle, parfois même de casser les molécules chimiques, des pesticides, et de les évacuer en quantité infiniment moindre qu'au moment où ces éléments sont arrivés sur le milieu où poussent les arbres. Donc c'est utilisé de plus en plus. Là, on a une photo de roseau, mais on pourrait mettre à la place, voilà l'élément dont il est question. Alors ne demandez pas d'expliquer d'une manière très complexe ça, il faut être un chimiste, et moi je ne suis pas chimiste. Mais la phytorémédiation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc ça, il y a plusieurs éléments là-dedans, sous ce terme générique-là, on parle de phytostabilisation, c'est-à-dire que les polluants sont précipités, absorbés ou piégés par la plante, ils restent dans les tissus de la plante, hein, mais donc ça retire une quantité importante de ces éléments chimiques du milieu. La phytoextraction, là, il y a absorption par les racines et accumulation dans les parties aériennes. Là, encore une fois, certains végétaux sont capables de stocker des quantités importantes de ces produits chimiques sans en mourir. Hein. Il y a des végétaux qui sont assez costauds de ce côté-là. Et la photodégradation, ça va encore plus loin. C'est plus simplement du stockage, mais c'est la dégradation. C'est là qu'intervient le fait que les végétaux sont capables de casser les molécules chimiques d'un certain nombre de produits et donc de diminuer d'autant la capacité de nuisance des produits en question. Et enfin, la phytovolatilisation aussi. Là, le polluant est volatilisé dans l'atmosphère. Alors, il a traversé toute la plante. Hein. C'est jusqu'à évacuer par les feuilles sous une forme infiniment moins toxique qu'au départ. La rhizofiltration, ça concerne l'utilisation de plantes avec des systèmes racinaires très performants qui jouent ce même rôle-là. Donc, on a cité les joncs et les joncs, les cirpes, les roseaux, les phragmites, etc. On peut citer les saules, les aulnes, hein, notamment pour ce rôle de phytorémédiation. Donc, c'est les ripisylves ou les forêts alluviales, c'est souvent des forêts qui ont été considérées comme peu ou prou inutiles parce qu'elles étaient difficilement accessibles, elles se prêtaient peu parce que le sol est engorgé une bonne partie de l'année. Donc, on ne peut pas y aller avec des gros matériaux, du moins pendant une bonne partie de l'année, encore une fois. Donc, on considérait qu'ils n'avaient pas de valeur économique. On s'aperçoit maintenant qu'ils ont une valeur économique via ce phénomène de phytorémédiation. Hein, et on cite souvent le cas de la ville de Munich, notamment, qui a pratiquement un coût d'eau potable pour le citoyen lambda ordinaire négligeable. Ils payent pratiquement rien leur eau. Pourquoi ? Parce que Munich a investi dans la gestion et l'achat même de forêts sur plusieurs centaines, voire milliers d'hectares. Il y a 1400 hectares de forêts qui appartiennent à la ville de Munich. Et à côté de cette sylviculture qui permet la filtration de l'eau, ils font de l'agriculture bio. La forêt ne peut pas être mise partout. On ne peut pas tout braiser. Il ne faut pas non plus... ou rêver ou exagérer. Donc, ça se fait en lien avec d'autres modes d'occupation du sol et souvent l'agriculture bio. Alors, sur la quantité des eaux, ça, c'est l'aspect qualitatif qui est le plus important. Sur l'aspect quantité des eaux, bien évidemment, encore une fois, c'est ce que j'abordais d'une manière très, très brève tout à l'heure. La forêt absorbe de l'eau, joue un rôle d'éponge, redistribue l'eau. En hiver, elle stocke. Et puis, en été, quand il pleut beaucoup moins, elle redistribue l'eau tout doucement. Donc ça joue un rôle très très important. Elle casse aussi ou elle permet aux crues, elle diminue l'impact négatif des crues, hein. Elle protège un certain nombre de choses et on a vu cette importance-là ces derniers temps. Donc c'est pour ça que parler d'eau et forêt, c'était pas bête. Encore une fois, c'est dommage qu'on ait abandonné cette dénomination l'eau. Alors indépendamment de ce rôle physico-chimique, quantité, qualité d'eau. Bien évidemment, les forêts alluviales. Alors, j'ai fait exprès de parler d'autres espèces que celles dont vont parler mes collègues. Il y a des espèces patrimoniales qui vivent dans ces forêts alluviales. C'est probablement parmi les plus riches au niveau biologique qu'on puisse trouver en France. Encore une fois, Poitou-Charentes n'est pas un exemple extraordinaire parce qu'on a des aulnaies frênaies relativement pauvres. Par contre, si vous allez dans l'est de la France, pour ceux qui connaissent et pour les naturalistes qui y vont de temps en temps, on a des forêts alluviales sur de beaucoup plus grandes superficies et avec des cortèges animaux et végétaux beaucoup plus riches. Ceci dit, en Poitou-Charentes, vous pouvez voir notamment ces deux espèces-là. Alors, une relativement commune qui est la salamandre. La salamandre, oui, c'est relativement commune, mais je me méfie de cette biodiversité dite ordinaire parce que malheureusement, elle pourrait très vite devenir... non ordinaire, hein, elle se raréfie, pas seulement parce que ces bestioles-là sont écrasées sur la route, mais parce qu'encore une fois, les forêts alluviales diminuent en superficie. J'espère qu'on va arriver à renverser cette tendance-là. Et puis des espèces moins ordinaires, vous avez ici un biro, héron biro, qui est un très très bel oiseau, relativement farouche, qui vit véritablement dans les ripisylves ou dans des forêts alluviales. Une ripisylve de 5 mètres de large, ça ne sera pas suffisant pour... que l'espèce puisse nicher. Par contre, des milieux plus étendus, là, on peut le trouver. Il y en a en Charente-Maritime, notamment. Il y en a en Charente, etc. Donc, c'est des espèces non exceptionnelles, mais qui sont quand même extrêmement importantes et qui dépendent véritablement, on appelle ça inféodés, à ces milieux de forêt alluviale. Donc le rôle biologique d'accueil des espèces, c'est aussi quand même quelque chose de très très important. Alors bon, une photo de loutre, vous en avez une ici empaillée, c'est dommage pour elle, mais au moins ça permet de voir, se donner une idée un peu de la taille que ça peut avoir. Ces ripisylves ou ces forêts alluviales, elles jouent un rôle essentiel de corridor biologique. Le long de ces formations végétales, le long de ces forêts alluviales, vont pouvoir se déplacer des espèces animales, voire végétales, via leur pollen. Il n'y a pas que des animaux qui se déplacent, les arbres peuvent aussi se déplacer. C'est plus subtil, mais ça joue un rôle important aussi, ce type de végétation-là. Vous avez un petit exemple, alors, à la fois intéressant et à la fois efficace et totalement insuffisant. Vous avez en contexte de plaine agricole un tout début de ripisylve qui a été reconstitué sur la photo de droite. C'est vraiment minimum. J'allais dire, c'est mieux que pire. C'est mieux que rien. C'est le début. On a convaincu l'agriculteur de replanter des aulnes, des saules, des frênes, du cornouiller, parce qu'une ripisylve, ce n'est pas qu'un arbre de auget de temps en temps, c'est aussi tout un cortège d'arbustes. Mais là, vous rendez bien compte que, encore une fois, c'est vraiment le minimum, quoi. Il y a 1 mètre, 1,5 mètres au grand maximum. Il faudrait faire passer ça à 5 mètres, 10 mètres pour que ça joue un rôle par rapport aux polluants qui sont en provenance, qui viennent de ces terres cultivées-là. Ceci étant, il n'y avait rien. Donc, c'est un début de sensibilisation. On va dire que voilà, on commence à faire de la pédagogie. Ça permet de parler de choses parce que ces arbres-là, mine de rien, vont se développer, on l'espère, dans l'avenir. Prendre un petit peu de place, donc il faudra aussi faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'aller passer les pareuses dès qu'il y a une branche qui va dépasser sur le sillon. Ça va être un petit peu la difficulté de la chose. Mais là, on peut commencer à parler de gestion, de corridors biologiques, etc. C'est difficile du jour au lendemain d'aller de l'inexistant à l'idéal. C'est un petit peu compliqué. Alors, bien évidemment, quand on parlait des problèmes de qualité tout à l'heure, une des réponses... un des endroits où on essaye de porter un petit peu les efforts un maximum, c'est sur les captages d'eau potable, encore une fois, parce que vous savez, donc X forage, captage d'eau potable fermé. La région a une politique sur qui s'appelle le programme ressources. Donc il y a des captages qui sont considérés comme prioritaires en raison de leur importance stratégique, du débit et du nombre d'habitants alimentés. Sur ces captages dits prioritaires, on essaye de revenir au boisement. Alors, je vais donner quelques exemples. C'est très compliqué parce qu'il y a un problème de maîtrise foncière. On n'est pas chez... les terrains, ils appartiennent à quelqu'un. Donc, voilà, il faut convaincre ou l'agriculteur ou le propriétaire, qui peut être un individuel, qui a un petit peu de terrain en bord de rivière, etc., qui a un peu de terrain en plein milieu d'une zone de captage d'eau, etc. Il faut convaincre les gens que le boisement peut être une solution. Alors, il n'y a pas que le boisement en plein. On peut faire de l'agroforesterie. L'agroforesterie, sur une terre cultivée, tous les 50-60 mètres, on plante une bande d'arbres. Ça permet de continuer à avoir une exploitation agricole, mais en même temps de faire revenir l'arbre dans un paysage d'où il avait disparu, et donc d'améliorer la problématique qualité d'eau, encore une fois, parce que ces rangées d'arbres plus ou moins régulières vont quand même jouer un rôle par rapport à l'infiltration de polluants, etc. Donc on essaye d'avancer plusieurs solutions à la fois. Vous en avez un exemple ici, le captage d'eau potable de la forêt de Saint-Sauvent, sur la diapositive de gauche. Alors ça peut paraître très artificiel, et encore une fois, maintenant on recommande des plantations différentes. Là c'est des plantations en ligne, c'est assez tristounet, ça fait penser à des plantations de carottes ou de petits pois, même si c'est des arbres, esthétiquement parlant c'est pas génial. En plus, biologiquement parlant, c'est pas génial non plus. Donc maintenant, ce qu'on préconise, c'est de replanter en bosquet. Parce que qui dit multiplication de bosquets, dit multiplication de lisières. On sait qu'une lisière en écologie s'appelle un écotone, c'est une zone de transition entre un milieu ouvert et fermé. Plus on a lisière, plus on a la possibilité d'accueillir des espèces. Après ça, quand vous faites du reboisement, c'est plus compliqué à gérer les premières années. Quand vous boisez une terre agricole, il y a des problèmes d'entretien mécanique, évidemment, on ne va pas entretenir ça au niveau avec des produits chimiques, mais donc ça complique un petit peu les choses. Bon, sur la diapositive de droite, ça paraît être très en ligne aussi, mais si on regardait ça vu d'avion, là, ça a été replanté en forme de bosquet, plus ou moins de forme plus ou moins irrégulière. On a planté quoi ? Là, c'est sur un terrain appartenant à la ville de La Rochelle, sur 2 hectares, on a planté 800 saules locaux, Hein, on n'a pas été planter des saules de Byzance ou Dieu sait quoi, on a planté des saules locaux présents parce qu'ils accueillent une avifaune intéressante. 800 saules, frênes et quelques peupliers noirs. Peuplier noir qui est un arbre indigène normalement de nos ripisylves et qui a un rôle biologique intéressant. Hein, on n'a pas planté du peuplier industriel, on le plante ailleurs avec d'autres finalités, etc., de production de contreplaqués. Ce n'est pas là l'objectif. Vous avez ici un paillage qui a été mis, c'est du feutre, ça coûte très cher, c'est compliqué. Donc maintenant aussi, ce qu'on recommande, c'est du paillage naturel, soit de la paille, soit des copeaux de bois, soit même à ce moment-là, on plante du lierre, parce que ça va recouvrir rapidement le sol, et ça sera beaucoup plus intéressant pour tout un tas de petits animaux qui jouent un rôle dans cet écosystème-là. Après, vous vous posez la question de la gestion de ces milieux-là. Soit vous les laissez en évolution libre, ils n'ont pas besoin de nous pour se débrouiller. Hein. L'arbre n'a pas besoin de nous, la forêt n'a pas besoin de nous pour bien pousser. C'est plutôt nous qui avons besoin de l'arbre ou de la forêt, c'est très différent. Soit alors vous faites de la sylviculture extensive, de la futaie irrégulière. De temps en temps, vous allez couper un arbre, vous apportez un certain revenu économique quand même, parce qu'encore une fois, on ne peut pas non plus tout planter uniquement avec un objectif environnemental. De temps en temps, le volet économique joue son rôle, surtout quand on est dans le milieu, encore une fois, dans le milieu rural. Quelques exemples pour moi très connus, je vous les ai cités. On parle souvent de Munich, mais New York aussi. Hein, New York, qui a subventionné à hauteur de un peu plus de 10 millions de dollars des agriculteurs pour qu'ils cessent une exploitation agricole sur 1200 hectares de terre érodée. Et en plus, ils ont fait passer une forêt de 800 hectares, moyennant quoi une partie des habitants de New York ont une eau dépolluée par la forêt. Et en même temps, dans cette forêt-là, vont revenir. Alors, pas forcément le castor ou la loutre, parce que ce n'est pas forcément sur des zones humides, mais vont revenir toute la faune associée au milieu forestier. Hein, on pense aux oiseaux, on pense aux chauves-souris, on pense à un certain nombre de mammifères, etc. Le fait d'avoir dépenser 10 millions de dollars avec une gestion agricole intéressante sur 1200 hectares et une plantation de forêt, ça leur a permis d'éviter la construction d'usines qui auraient coûté 8 milliards. Alors quand on dit que les zones humides, la forêt, etc., n'a pas véritablement un rôle économique phénoménal, là, si. Parce que quand on cite ces chiffres-là, on s'aperçoit quand même que on est capable de chiffrer, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques, la valeur rendue par les écosystèmes, ça commence à prendre un petit peu, racine, sans jeu de mots, dans l'esprit d'un certain nombre de gens qui s'occupent d'aménagement du territoire. Voilà, Munich, c'était, 1560 hectares de forêt où ils ont remplacé progressivement les résineux par des feuillus. Alors, ce n'est pas pour faire une guerre bête et absurde, résineux contre feuillus et vice-versa. C'est tout simplement que les résineux ont un l'épicéa ou les pins, etc. Dans leurs aiguilles, il y a un certain nombre de substances, qu'on appelle notamment les acides fulviques, qui peuvent être toxiques, y compris pour l'eau. Donc, il vaut mieux un peuplement feuillu. Ça donne une eau de meilleure qualité que de l'eau en provenance de forêts purement résineuses. Donc à chaque fois qu'on plante, vous avez remarqué tout à l'heure, on a parlé de saules, d'aulnes, etc., on n'a pas planté du pin, et on ne le plantera pas. Hein. On plantera des feuillus. Vitel, je ne vous dis pas pourquoi, je ne fais pas de pub, mais Vitel a planté des haies et intervient sur la gestion de 650 hectares de forêt. Et encore une fois, ça leur permet de conserver la qualité des sources qui ont la valeur économique qu'on connaît. Donc on a quelques opérations pilotes en Poitou-Charentes. Je vous ai parlé de la ville de La Rochelle tout à l'heure. On a planté donc 800 saules, frênes, peupliers noirs sur 2 hectares. Et en 2010, alors c'est plus des prévisions, j'ai pas corrigé la diapo, c'est fait. On a planté 2000 sur 5 hectares, on a planté un peu plus de 2000 arbres de 23 essences différentes. Là encore, il ne s'agit pas de faire une plantation monospécifique avec une seule essence. Hein, je dis toujours que même si le carburant augmente, essayer de faire le plein d'essence en milieu forestier pour des raisons de biodiversité, pour des raisons de qualité d'eau, de reconstitution des milieux intéressants, on a planté notamment des essences aussi en tenant compte du réchauffement climatique. Hein. Sur le captage de chênaies dans les Deux-Sèvres, sur 7 hectares et demi ont été plantés un peu plus de 13 000 arbres. Vous voyez que c'est des chiffres qui commencent à être pas tout à fait négligeables. Pourquoi ? Parce que le syndicat d'eau a acheté ces 7 hectares et demi-là. Ils ont eu la maîtrise foncière. Hein. Donc, c'était cultivé en maïs et en tournesol. On va avoir un bois. On ne va pas parler de forêt sur 7 hectares et demi. On va avoir un bois qui va pousser. Et encore une fois, avec, je ne sais plus si c'est 20 ou 22 essences différentes. que l'on pense capable de résister aux futures conséquences du changement climatique, donc à des canicules estivales importantes et peut-être à un abus de précipitation en hiver. Parce que le réchauffement climatique, c'est ça, plus froid en hiver, plus d'eau en hiver à un certain nombre d'endroits et des canicules en été. Même si c'est très inégalement réparti sur le territoire, ce qui fait que de temps en temps, les gens ne comprennent pas. Parce que quand on voit de la neige et de la glace, on dit mais le réchauffement climatique, il est où? Ben oui, mais c'est aussi lié au changement climatique. On parle de changement climatique plus que de réchauffement, encore une fois. Pour la ville de Poitiers, on a des études en cours sur un captage très important, qui est le captage de Fleury. Je crois que c'est un captage pilote au niveau du ministère de l'Environnement. Donc on va essayer là de conforter un boisement qui existe sur un coteau, qui a été un peu dévassé par le propriétaire précédent. Donc on va reboiser sous le couvert d'arbres existants. Et notamment beaucoup d'arbustes. On ne va pas planter là des arbres de hauger, on va planter beaucoup d'arbustes nourriciers pour la vie faune. On va essayer de cumuler les deux aspects. Donc tout ça, ça a des coûts. Donc pour l'achat des terrains éventuellement ou pour la contractualisation avec les propriétaires. Donc on bénéficie, et là la région a ouvert une ligne budgétaire importante qui n'est pas consommée malheureusement parce qu'il n'y a pas suffisamment de dossiers qui voient le jour. C'est très compliqué de convaincre les gens. Mais voilà, ça peut être financé à plus de 80%, voire à 100% dans un certain nombre de cas. Donc j'espère qu'on va pouvoir élargir l'utilisation de ces budgets-là. Parce que quand il y a des sous, c'est quand même un petit peu couillon de ne pas les utiliser, quoi. On n'a pas toujours des sous pour faire des opérations environnementales. Voilà, bon, je vous ai donné, ça c'est pas une photo, c'est un dessin, mais idéalement parlant, ce que serait une zone de captage d'eau potable reboisée, donc pas des boisements en ligne style, encore une fois, tomate ou petit pois, mais avoir un aspect le plus naturel possible, avec des arbres de hauger, des buissons, des pelouses, de l'herbe, etc. Fonctionnellement, ça marche très très bien, et écologiquement parlant, c'est beaucoup plus intéressant. Évidemment, je vous parlais du résineux, pas du résineux, mais surtout pas non plus de ce qu'on appelle le béton végétal, c'est-à-dire des thuyas, des camissiparis et autres bestioles qu'on voit malheureusement un petit peu trop. Alors peut-être pas dans le milieu rural, mais en milieu urbain ou périurbain, on voit beaucoup ça. C'est pas très intéressant sur le plan de la biodiversité et pas non plus sur le plan de la qualité d'eau. Bon, pour vous donner un exemple de ce qui pourrait se planter, encore une fois, si vous avez envie de planter, allez-y, sur une zone... un captage d'eau potable ou à côté d'une zone humide, pourquoi pas. Sur les sols frais et argileux, vous pouvez utiliser le noyer, le chêne pédonculé, le châtaignier, l'érable. Alors le châtaignier, c'est un arbre, on ne peut pas le planter partout, il craint le calcaire, donc il est dit calcifuge, on ne va pas le planter sur des terrains calcaires, évidemment, on va le planter sur des terrains argileux. L'érable sycomore, le tremble, le platane, ça sera beaucoup plus tolérant au niveau des sols. L'aulne glutineux, à condition qu'il y ait de l'eau suffisamment longtemps dans l'année. Le problème, c'est que depuis quelques temps, je vous ai parlé du changement climatique, on a des problèmes de maladies, des pathogènes sont favorisés par l'augmentation des températures estivales, et sur le châtaignier, on a des problèmes qu'on appelle la maladie de l'encre, c'est dû à un champignon de la famille des Phytophthora, et on a la même chose qui commence à venir sur le frêne, alors là on commence à se gratter la tête, et sur l'aulne aussi, et on est encore un peu plus inquiet. Donc on est plutôt des pessimistes actifs plutôt que des optimistes béats, parce que la progression de ces maladies-là commence à nous poser des problèmes. L'aulne dépérit, notamment dans le marais poitevin. On a des études qui sont faites pour savoir comment ça se propage. Alors, c'est pas compliqué, c'est un champignon, donc c'est les spores qui propagent la maladie. Les champignons tombent sur l'eau, et si vous avez des aulnes qui exigent aussi la présence d'eau, ils sont souvent bien en berge, voire les pieds dans l'eau, et c'est comme ça qu'ils attrapent la maladie, quoi, d'un arbre malade à un autre. Donc... On continue de planter des aulnes, mais surtout pas pures. On les mélange avec des saules, on les mélange avec des chênes, on les mélange avec du frêne pour parer un petit peu aux dégâts malheureusement futurs. Donc on essaie de suivre ça de près. Et encore une fois, une ripisylve, une forêt alluviale, ce n'est pas que des arbres de hauger, c'est un écosystème très complexe. Vous avez notamment quelques-uns de ces arbustes-là qui peuvent être plantés. Le charme, alors le piracanta entre guillemets, parce que c'est plutôt décoratif qu'autre chose. Le sureau, l'alisier terminal, le houx, le fusain, le noisetier, le groseillier rouge. Le groseillier rouge, c'est caractéristique des ripisylves, on en trouve dans la nature. Donc là, c'était un petit peu des mélanges qui avaient été recommandés pour des haies, mais on peut se servir de certains de ces arbustes-là pour replanter, notamment en ripisylve. On fera une croix sur celui-là, on l'enlèvera. Alors pour autant, quelle gestion? C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors là, les forestiers sont un petit peu entre deux feux. Si on reboise des zones de captage d'eau potable, si on maintient des zones boisées dans les zones humides, le but premier, ce n'est pas de faire la production. Le but premier, c'est la protection de la ressource en eau. C'est vital. Alors, quel est le prix que la société est prête à accorder à cette fonctionnalité-là? quel type de contrats ou de services sont possibles pour les propriétaires qui acceptent, mettons, de laisser, de pas exploiter une forêt alluviale sur, je veux dire, n'importe quoi. Il a un propriétaire, il a 100 hectares de forêt alluviale qui a un rôle essentiel pour la protection d'une nappe phréatique. Bon, dit d'accord, moi, j'aurais pu faire du peuplier, mais je le fais pas parce que je sais que ma forêt alluviale, elle protège la nappe phréatique qui alimente 10 000 personnes. Bon, c'est pas impossible, hein. Ces cas-là, on en connaît. Bon, quel prix la société est prête à accorder à ce service écosystémique-là ? Le propriétaire dit bah, je n'exploite pas mes 100 hectares, je les laisse comme ça pour des raisons d'intérêt général. Bon, bah, comment on compense son renoncement à une valorisation économique qui pourrait être la plantation de peupliers ? C'est une vraie question sociale, économique, etc. Mais ce type de question va se poser de plus en plus. Il y a eu un fameux rapport de monsieur, comment il s'appelle, Chevassieu-Louis, sur les services écosystémiques rendus par un certain nombre de milieux. On est en plein dans ce cas de figure-là pour ce qui concerne les forêts les boisements. Alors, on peut toujours faire la valorisation économique, hein, faire la futaie irrégulière. De temps en temps, on fait de la sylviculture d'arbres, on enlève un gros arbre bien portant, etc., qui donne du bois de qualité. Mais on ne fait jamais de coupe rase, hein, évidemment. Si on fait une valorisation économique de ces forêts alluviales-là, ça sera toujours avec beaucoup de précautions. Ou alors on les laisse en évolution libre, bah, c'est ce que je viens de dire. Encore une fois, les forêts en évolution libre, ça se porte très très bien, elles n'ont pas besoin de nous. Et puis on a des petites subtilités, au lieu de faire de la sylviculture arbre par arbre, un gros arbre de ci, de là, de temps en temps, on fait des peuplements en parquet, c'est-à-dire des petites taches d'une essence précise. Donc là aussi, si on fait des coupes, quand ces arbres-là seront mûrs, ça sera que sur une toute petite superficie, bien diluée dans l'espace. Donc, on ne remettra jamais en cause la présence du couvert végétal. Voilà. Alors, il y a des moyens pour ça. J'ai parlé de la région Poitou-Charentes. Les agences de l'eau aussi financent beaucoup de choses, notamment depuis quelques années. Et la journée mondiale de l'eau, bah, ça permet d'attirer l'attention sur la possibilité, encore une fois, de financer toutes ces régions-là. Donc, les boisements de Chenay, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou ceux de La Rochelle, ont été subventionnés, partie par la région, partie par les agences de l'eau concernées. Nous, on est à cheval, la région Poitou-Charentes, sur deux agences de l'eau, Loire-Bretagne et Adour-Garonne. On espère encore une fois que dans l'avenir, la collaboration avec ces deux structures-là va se... Alors, j'ai envie de vous parler quand même d'une opération un peu pilote, pas loin d'ici, sur le Pays des Six-Vallées. Bon, moi, j'habite à côté de Coulombiers. Donc, Pays des Six-Vallées, c'est Vivonne, Coulombiers, Lusignan. Ça va jusqu'à Smart, d'ailleurs, entre parenthèses. Hein, c'est un grand pays, vouillé. On a recensé depuis un an, pardon, tous les captages d'eau potable sur les 22 ou 23 communes. Et on a recensé sur ces 22 ou 23 captages, oui, je crois que c'est ça, 7 captages susceptibles d'être boisés en tout ou partie pour protéger la ressource en eau. On a travaillé avec un hydrogéologue et sur ces 6 ou 7 captages, il y en a 2 qui sont sur le point d'être fermés. Bon, donc il y a vraiment un problème d'urgence. Parce que sinon, l'eau, on va la chercher où, etc. etc., etc. Donc, qui dit pollution, dit usine de traitement, ça coûte cher à tout le monde. Donc, on va proposer, et on a proposé au Pays des Six-Vallées, cette étude-là, on va proposer, on rencontre les syndicats d'eau, on rencontre la profession agricole. On ne peut pas faire ça sans eux. C'est compliqué, parce que, bah, comme par hasard, dans bon nombre de ces périmètres de protection des zones de captage d'eau potable, notamment le périmètre de protection rapproché, qui peut quand même représenter pour certains captages plusieurs centaines d'hectares, on ne peut pas tout reboiser. Il y a de la culture, et de la culture qui se fait à grande échelle. Donc on essaye de négocier la possibilité de reboiser, de replanter quelques hectares. Potentiellement parlant, c'est plusieurs milliers d'hectares. Si on arrive à 100 hectares reboisés dans les années à venir, on sera content. Mais il y a des problèmes d'échelle, hein, véritablement. Mais là, voilà, on a une étude grandeur nature avec tous les acteurs, les élus, les syndicats, les propriétaires, les agriculteurs, etc. Et on essaye de faire progresser les choses. C'est la première fois qu'on lance une étude à grande échelle sur un pays complet et sur tous les captages. On ne prétend pas avoir la seule solution. Hein, encore une fois, le boisement, c'est un accompagnement d'autres mesures. Si on boit 100 hectares, ben ailleurs, il faudra faire autre chose, donc de l'agriculture bio ou autre chose, ou en tout cas réduire l'utilisation des produits chimiques, etc. Mais là, encore une fois, c'est une bonne illustration du fait que l'arbre et la forêt sont vraiment liés au problème d'eau. Voilà une photo du captage, d'un des captages reboisés sur la ville de La Rochelle. Vous voyez quelle allure ça peut avoir, c'est quand même assez sympa. Donc là, c'est du frêne, essentiellement, un petit peu plus loin, on a replanté les saules et les peupliers noirs. En même temps que vous faites ça, eh ben, vous remplissez trois autres rôles importants. Bon, premier rôle, protection de l'eau, en quantité, en qualité. Vous stockez du gaz carbonique. Quand vous replantez un hectare de forêt, vous stockez peu ou prou 2 tonnes de gaz carbonique. Ce n'est pas le seul gaz à effet de serre, hein, y en a bien d'autres, malheureusement. Mais bon, donc ça contribue à lutter contre le réchauffement climatique dont on parlait. Vous améliorez la biodiversité parce que bah, la faune va revenir, là. Vous avez les oiseaux, vous avez les petits mammifères qui reviennent. Et en même temps, vous arrivez à reconquérir une partie de nos paysages en zone de grande culture. Hein, parce que sur certains endroits, c'est aussi plat que le bureau, là. Il n'y a plus grand-chose. Donc là, on replante des arbres, donc on améliore le paysage, on fait revenir l'arbre, on lui fait retrouver une certaine place. Donc finalement, les grandes politiques environnementales, on va les retrouver à travers l'arbre et la forêt. Hein. Voilà, j'ai à peu près tenu le timing parce que Gaël a la gentillesse de me faire part des minutes qui restaient. On a peut-être un petit temps d'échange avant de passer la parole à mes collègues, en espérant que voilà, j'ai fait un tour succinct, critiquable, parce qu'il y a des choses dont je n'ai pas parlé ou dont j'ai parlé peut-être trop rapidement. Mais si vous avez des questions à poser, ce sera avec grand plaisir qu'on essaiera d'y répondre.
Merci à toi pour ces explications donc sur les rôles de la ripisylve et puis de la forêt en général. Donc plus sur les rôles économiques et sur la qualité de l'eau. On verra donc après par rapport à la biodiversité et la présence loutre et castor. Mais si vous avez déjà des questions sur ce qu'Alain vient de nous présenter, en attendant que...
Non, je les ai assommés, oui. S'il y a une question.
Il ne semble pas que vous ayez évoqué les vallées marécageuses style Boivre, Miosson ou Auxens. Quel est le processus là? Est-ce qu'il y a, enfin, l'originalité du processus? Parce que là, dans ces endroits-là, les arbres sont en permanence, pratiquement les pieds dans l'eau, sauf quand il fait vraiment très chaud.
Oui. Ben là, il y a des. Alors, moi, j'ai parlé effectivement de mon expérience et de ce que je fais au niveau professionnel. C'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les communautés d'agglomération, avec les communes, avec l'agence de l'eau, avec l'ONEMA, etc., qui, elles, s'occupent de tous ces milieux-là. Et puis, je parlais tout à l'heure Natura 2000. Il y a un certain nombre de sites où on a des milieux alluviaux qui sont concernés par des sites Natura 2000, sur lesquels on a des financements d'État, cette fois-ci, qui peuvent se mettre en place, et l'appui d'opérateurs, c'est-à-dire de gens qui sont là pour répondre et pour conseiller les propriétaires. Qui ne savent pas toujours comment gérer leur ripisylve, hein, leur fameuse ripisylve ou forêt alluviale. Il faut être là pour leur apporter des conseils, leur montrer des choses. Dans pas longtemps, on va faire une journée, par exemple, d'information à destination des techniciens de rivière, parce qu'ils interviennent notamment. Alors là, ils travaillent avec les syndicats d'eau, et les techniciens de rivière font un gros boulot. Je ne sais plus s'ils sont 20 ou 30 en Poitou-Charentes, mais régulièrement, il y a des rencontres au CPIE de Latu. Et eux interviennent sur pratiquement tout le chevelu, hein, c'est-à-dire tous les systèmes hydrographiques dont je parlais tout à l'heure. Il y a régulièrement un entretien de ces milieux-là avec des travaux qui se font en accord avec les propriétaires. Donc il y a une assistance par rapport à tous ces milieux-là. Bon, le problème, c'est... je parlais tout à l'heure des infrastructures qui peuvent venir fiche en l'air un certain nombre de milieux. Il y a des problèmes d'urbanisation en un certain nombre d'endroits. Le changement climatique, il a pour effet, je vous parlais des 1800 km de rivières à sec en 2010. Ça veut dire aussi que les débits d'étiage sont de plus en plus sévères. Donc vous avez des fois l'eau, la rivière baisse de 1 mètre, 2 mètres, etc. régulièrement. Donc vous avez le système racinaire qui est mis à nu et qui souffre. Et on arrive à avoir des arbres extrêmement résistants comme le frêne ou l'aulne qui dépérit. Parce que régulièrement, il n'a plus suffisamment d'eau. Ça, c'est très difficile à maîtriser parce que c'est du coup à l'échelle des bassins versants qu'il faudrait prendre le problème. Ce n'est pas à l'échelle de la petite ripisylve ou de la commune de Montamisé ou d'une autre ou de Montalembert. C'est à l'échelle du bassin versant que se pose le problème de la ressource en eau, de l'alimentation en eau. Voilà, donc il y a un certain nombre de mesures qu'on essaye de rendre accessibles aux gens. Via les publications, via des stages de formation, etc. Je crois que c'est le travail en commun. Gaël, dernièrement, avait fait appel à nous avec les gens du service environnement de la communauté de l'agglomération. On avait travaillé ensemble. Voilà, je crois que c'est le travail en commun qui pourra faire progresser les choses. Je vous dis, mais la problématique quand même, première, c'est faire en sorte que la ripisylve ait un rôle écologique reconnu, faire en sorte que lorsqu'on le peut, elle retrouve un rôle économique, parce que c'est souvent le rôle économique qui va faire en sorte que les gens acceptent d'en tenir compte. Et puis il y a le problème dans les zones de captage d'eau potable, de la maîtrise foncière, de savoir quelle... c'est très compliqué, mais je crois que la prise de conscience est quand même importante depuis quelques années, mais on a du pain sur la planche, si j'ose dire, quand même.
Je me permets de compléter donc, par rapport à votre question. Vous parliez de trois rivières qui sont finalement sur le territoire de l'agglomération de Poitiers, donc la Boive, l'Auzance et le Clain. Donc, comme le disait Alain, sur ces trois rivières, il y a un contrat de rivière qui existe. Et nous, au niveau de l'agglomération, on travaille en lien avec ces techniciens de rivière pour essayer justement de mettre en place des actions, notamment de plantation de ripisylves, pour compléter ce rôle de corridor et de déplacement, aussi bien pour les personnes que pour les animaux. Il y a le Mieux-Son aussi, qui fait partie de Saint-Benoît, donc il est dans l'agglomération. Non, oui, le Clain déborde un peu, oui. Mais notre action sur les quatre rivières est identique.
Que la végétation soit ennoyée en quelque sorte des pieds ou qu'elle ne le soit pas, les problèmes sont grosso modo les mêmes. Parce que finalement, la vallée du Mieux-Son, la vallée de la Boive, etc., c'est un marécage sur une partie au moins de leur cours, en amont. Et les arbres ont les pieds dans l'eau en permanence, sauf peut-être en été quand il est vraiment très sec. Alors que dans la vallée du Clain, ils n'ont pas les pieds dans l'eau, sauf ceux qui sont carrément au bord de la rive. Donc je voulais savoir s'il y avait des problèmes spécifiques justement pour cette végétation qui est ennoyée, qui est de type marécageux, où on trouve à la fois des arbres, des arbustes, des forêts, même des charognes, je ne sais pas quoi.
Après, vous n'allez pas trouver les mêmes espèces sur les deux milieux, c'est-à-dire les ripisylves ou les parties de forêt alluviale qui sont directement en contact avec l'eau. Vous allez avoir un cortège végétal notamment précis. Vous allez avoir un cortège végétal différent à quelques dizaines, voire centaines de mètres plus loin. Bon, les forêts alluviales, c'est vraiment, ça peut aller sur le lit majeur d'une rivière. La ripisylve, c'est vraiment au contact de l'eau, quoi. Donc vous avez des différents types de forêts alluviales. Vous avez des forêts alluviales humides, avec des aulnes, des frênes, etc., et des saules. Et puis vous avez des forêts alluviales qui sont moins humides, avec du chêne pédonculé ou de l'orme, ce qu'on appelle les forêts riveraines des grands fleuves, qu'on trouve notamment avec de très beaux exemples dans l'est de la France. Vous avez le chêne pédonculé qui pousse avec l'érable sycomore et l'orme champêtre. Bon, l'orme champêtre, vous connaissez tous le problème de l'orme champêtre, bon, malheureusement. Mais ça fait partie du cortège arborescent typique de ce type de forêt-là. Donc vous avez des gradients d'humidité différents. Mais la problématique de gestion et de sauvegarde, de pérennité de ces milieux-là, milieu ennoyé ou milieu moins ennoyé, la problématique, elle est la même, quoi. Quel type de gestion on y fait, avec quels moyens, c'est la même chose, si vous voulez, grosso modo.
Justement, une question ponctuelle, là. En bas de Vouneuil-sous-Biard, il y a donc une espèce de réserve au bord de la Boivre. Vous connaissez, c'est une réserve.
Oui, mais ça, Gaël, je crois, connaît encore mieux que moi.
Oui, c'est ça, oui. Et il y a un gros abattage d'arbres ces derniers temps, enfin de peupliers. Je voudrais savoir par quoi on va les remplacer ou est-ce qu'on va replanter des peupliers.
Alors, le terrain auquel vous pensez, c'est une propriété privée. Donc, c'est le propriétaire qui a tout à fait le droit, l'autorisation de couper des peupliers et de replanter derrière. Donc, est-ce qu'il replantera en peupliers ou en d'espèces, comme d'en parlait Alain, de frênes, de saules ou d'aulnes? C'est à son bon vouloir.
Oui. Nous, on préconise... le peuplier, il a son rôle à jouer. Moi, je préfère, à la limite, qu'on utilise du contreplaqué fait avec du peuplier poussant en Poitou-Charente que du peuplier fabriqué avec du bois exotique, avec les conséquences qu'a la gestion des forêts tropicales qu'on connaît. On a fait un débat il n'y a pas longtemps à Médès-France, ici, là-dessus. Bon, les forêts tropicales sont tellement malmenées et massacrées que... voilà. Je préfère maîtriser un petit peu une populiculture. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a essayé d'introduire ce qu'on appelle les cahiers des charges peupliers environnementaux. C'est-à-dire de faire du peuplier, mais en laissant pousser sous le peuplier, soit du sous-étage, soit de la mégaforbiaie. Yves sait de quoi je parle, des formations végétales à hautes herbes, qui sont souvent très très riches, avec de la Véronique, avec de la Reine des Prés, etc., qui sont d'ailleurs des habitats visés par la directive Natura 2000. On peut très bien faire du peuplier de manière extensive, en laissant un certain nombre d'espèces animales et végétales prospérer là-dessous. Alors, ce n'est pas de traitement chimique, ce n'est pas d'utilisation de gros matériel, etc. Mais il y a des cahiers des charges qui existent pour ça, parce qu'encore une fois, le peuplier, il a son rôle à jouer au niveau économique. Faire des peupliers à grand espacement, par exemple, pas le planter 6 mètres par 6 mètres, mais 8 mètres, 9 mètres, 10 mètres, idéalement parlant, parce que ça laisse suffisamment de lumière pour que d'autres espèces que le dit peuplier en question puissent pousser. Dans la vallée de la Charente, c'est typique, on a des peuplerets gérés de manière extensive avec de très beaux sous-étages de frênes. Il y a du loriot de partout là-dessous et on trouve encore des mégaforbiers assez importantes. Dans le Marais Poitevin, c'est pareil. Avec l'Observatoire scientifique du Marais Poitevin, on essaye de promouvoir ce type de sylviculture extensive. Encore une fois, relativement respectueuse du milieu. Maintenant, ça n'obère pas du fait que sur des prairies alluviales extrêmement importantes, donc des zones humides vitales où il y a du râle des genêts, bah, faut surtout pas planter, que ce soit du peuplier ou autre chose, parce que le râle des genêts, malheureusement, est une espèce extrêmement menacée. Il supporte pas la présence de quelque arbre que ce soit sur la prairie où il va nicher et se reproduire. Quoi. Ben, le peuplier noir, c'est un peuplier spontané, indigène, autochtone, qui était là depuis longtemps, même avant nous. C'est très différent du peuplier cultivé, qui sont des clones élevés. Moi, le peuplier, je le compare un petit peu à ce qu'on fait maintenant avec l'orchidée. À partir d'une bouture, vous faites de la culture en laboratoire d'orchidée. Vous avez la même orchidée que vous reproduisez à 10 000, 20 000 exemplaires. Le peuplier cultivé, pour des raisons économiques, c'est ça aussi. Hein. Voilà. Bon, il a son rôle économique, il a sa vocation, encore une fois, je préfère qu'on l'utilise dans le contreplaqué que de l'exotique. Le peuplier noir, lui, c'est un peuplier spontané typique des forêts alluviales, notamment dans le Rhin, sur le Rhin, qu'on appelle le Ried alsacien, où on va trouver du castor, on va trouver de la loutre, on va trouver du vison, peut-être, je ne sais pas. Mais le peuplier noir, il est toujours présent. Dans la vallée de la Garonne, c'est un peuplier très présent dans les ripisylves, mais qui avait tendance à disparaître, parce que ce n'est pas un peuplier productif comme les autres. Donc maintenant, on le trouve en pépinière depuis quelques années. Il n'y avait plus de pépinière produisant du peuplier noir. Donc les gestionnaires de milieux naturels, notamment de ripisylves et de forêts alluviales, quand on fait de la reconstitution, peuvent maintenant acheter des pieds de peuplier noir et le replanter depuis quelques années.
Il y a d'autres questions ? On passe au deuxième diaporama. Peut-être la dernière question pour qu'on puisse faire la présentation.
C'est la place.
Dans la commune où je suis née en Charente, le ruisseau était bordé de près de fritillaires, pintades.
Oui.
Quel est le rôle de ces en dehors du côté esthétique, c'était très beau. Ça a été complètement détruit par le maire qui est agriculteur, qui a tout labouré. Alors donc, quel est le rôle de ces plantes ?
La fritillaire pintade, c'est une espèce dite patrimoniale chez nous, c'est-à-dire qui est indicatrice d'une bonne qualité de milieu. Quand vous avez la fritière pintade, vous êtes sûr que vous avez un milieu humide avec régulièrement de l'eau, etc. Donc c'est typique de prairies alluviales riches en autre chose. Hein. Si vous avez la fritière pintade, vous aurez d'autres espèces intéressantes. Vous aurez des papillons, vous aurez peut-être du cuivré des marais, d'autres choses. Donc c'est une plante indicatrice d'une bonne qualité de milieu. Poitouchant Nature a fait des inventaires il y a quelques années là-dessus en recensant les stations de fritière pintade. Et chaque fois que faire se peut, on essaie de faire en sorte que ces milieux-là soient sauvegardés. Parce que chez nous, elle est encore assez abondante, mais dans d'autres régions, elle l'est beaucoup moins. Vous avez des régions où elle est protégée officiellement, on n'a pas le droit d'y toucher. Bon. Ben parce que chez nous, elle est encore relativement abondante. Et que, alors là, Yves, tu pourras peut-être dire pourquoi on n'a pas... Elle ne fait pas partie des plantes protégées au niveau régional. Peut-être parce qu'on considère qu'elle n'est pas suffisamment rare. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, mais nous, quand on en voit, on essaye de faire en sorte, dans un projet de reboisement au peuplier, on en parlait tout à l'heure, on a fait en sorte qu'une station de fritière pintade ne soit pas replantée. Donc le propriétaire avait accepté, parce qu'il trouvait ça sympa aussi, de laisser une partie du terrain en l'état. Bon, voilà, donc ça peut arriver de temps en temps.
On passe au deuxième diaporama ?
Bien, je vous avais dit que en attendant que je pense que Sylvain est pratiquement prêt, je vous avais dit que je vous présenterais rapidement un établissement public de l'État pour lequel nous travaillons avec Sylvain, qui s'appelle l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. J'ai amené quelques présentations, avec en particulier la présentation, l'organisation de notre délégation interrégionale, Poitou-Charentes-Limousin. Puis j'ai amené le panneau de présentation des missions qui sont réalisées dans le département de la Vienne où nous nous trouvons. Alors l'Office national de la chasse et la faune sauvage est un établissement public de l'État sous tutelle du ministère de l'écologie et du ministère de l'agriculture. C'est un établissement avec 1800 permanents, agents permanents, essentiellement des agents en uniforme qui exercent la police de l'environnement. Donc on le verra avec le département de la Vienne par exemple. En ce qui me concerne, je suis responsable des activités techniques réalisées sur la région Poitou-Charentes-Limousin. Et s'il y a quelque chose que vous devez retenir concernant notre établissement, c'est ces trois grandes missions qui sont fixées par l'État. Une mission d'études et de recherche sur la faune, sur la faune sauvage et on va dire sur les habitats. De plus en plus, on travaille sur les habitats où vit cette faune sauvage. La recherche, c'est bien, c'est nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. Ça doit déboucher sur des préconisations techniques et en particulier de l'expertise pour pouvoir faire de la gestion. Donc c'est la deuxième grande mission, gestion concernant la faune, conseil vis-à-vis des agriculteurs, du monde rural, des usagers, des propriétaires, des chasseurs, des non-chasseurs, enfin tout un tas de personnes. Préconisation vis-à-vis de l'État aussi, puisque le ministre, quand il doit prendre un arrêté, par exemple, concernant la chasse ou concernant une autre activité qui touche à l'environnement, il a besoin de l'expertise et nous faisons partie des établissements qui apportent cette expertise. Et troisième grande mission, c'est la mission de police de l'environnement, dont fait partie la chasse, mais la police de l'environnement, le code de l'environnement codifie donc un certain nombre d'activités et notre police, à nous, intervient plus particulièrement concernant la protection de la faune et la flore au niveau national. Nous sommes implantés sur le territoire, sur la métropole, nous sommes implantés également en Outre-mer. Nous avons des brigades sur tous les départements d'outre-mer, y compris Mayotte maintenant. On y était déjà avant que Mayotte ne devienne département d'outre-mer. Donc voilà un petit peu pour l'implantation de l'établissement. Donc je vous l'ai dit, essentiellement des fonctionnaires en uniforme qui font de la police de l'environnement, mais qui font aussi des activités techniques, qui font des relevés techniques sur le terrain. Relevés qui ensuite vont être exploités par des ingénieurs dans le cadre de réseaux nationaux qui existent. Nous sommes très structurés et cette utilisation des données de terrain débouchera à terme donc sur des préconisations techniques. Alors si on prend notre délégation, nous, interrégionale, puisqu'on couvre Poitou-Charentes et Limousin, on retrouve les trois grandes missions. Alors évidemment, la région coordonne les activités, les décisions se prennent au niveau national, les régions coordonnent et les départements agissent. Donc en ce qui nous concerne et en ce qui concerne mon service, j'interviens plus particulièrement en termes de gestion et de coordination des activités techniques, donc des services départementaux, des quatre départements de Poitou-Charentes et des trois du Limousin. Nous menons également des actions territoriales sur un certain nombre de territoires. Donc là aussi, ça fait partie des actions que je coordonne avec mon équipe technique. Et puis, alors ça m'échappe, c'est pas mon domaine, mais nous coordonnons également l'activité police de l'environnement des sept services départementaux donc concernés. Donc voilà la couverture géographique concernant notre délégation interrégionale. Si vous voulez regarder de plus près tout à l'heure le panneau, il n'y a pas de souci. Vous verrez, bon, on a une petite erreur, je la signale tout de suite parce qu'on n'a pas le droit, l'établissement comme le nôtre, de commettre des erreurs. Donc on a une erreur d'impression, le panneau est tout frais, il n'y a pas longtemps qu'on l'a fait faire. Et c'est bien une bécasse des bois qui est baguée et non pas une bécassine des bois. Donc voilà, c'était pour la précision puisque vous auriez pu réagir par rapport à cette petite erreur. Alors si on prend pour exemple le département de la Vienne, les collègues donc du service départemental qui agissent en uniforme, on retrouve les trois grandes missions, sauf que eux, c'est au niveau des actions qu'ils mènent sur le terrain. Là, on voit des collègues qui sont en contrôle chasse parce que la chasse fait partie du code de l'environnement et ça fait partie de leur mission de contrôler la chasse, entre autres. Hein, ça n'est pas que leur mission de police. Donc là, on voit leur action de police donc au niveau du département, avec des actions également sur la circulation des véhicules dans les espaces naturels, des relevés d'indices, etc. On voit l'activité d'études et de suivi scientifique, et là, en particulier, je pense que Sylvain reviendra là-dessus tout à l'heure, la présence du castor dans le département, donc dans le département de la Vienne. On voit également l'outarde canepetière, on effectue des comptages avec des associations de protection de la nature, notamment. Donc un certain nombre d'opérations techniques. Pour les aspects scientifiques, les agents de terrain collectent des données sur le terrain et ensuite ces données remonteront au niveau national et seront analysées, interprétées au niveau donc, des ingénieurs de la maison. Et puis on retrouve les actions territoriales en bas sur un certain nombre donc, de territoires où les agents, de par leur contact journalier, donc, donnent du conseil auprès des personnes qu'ils côtoient. Très rapidement, Donc, les agents en uniforme, globalement, 1300 agents au niveau national, et les ingénieurs et techniciens qui travaillent sur la recherche et le développement, un peu plus de 200. La différence, c'est des personnels administratifs, puisque comme tout établissement, pour fonctionner, il faut des personnels administratifs et même des ouvriers, puisque sur certaines réserves, on a besoin de personnel ouvrier pour un certain nombre de travaux dans le cadre de capture, par exemple, d'actions de ce type. Quelques clichés, j'aime bien tordre le cou à quelques clichés. Un établissement public un peu mal connu, alors c'est peut-être de notre faute, on est peut-être de mauvais communicants. On nous confond souvent, Alain tout à l'heure parlait de l'Office national des forêts, on nous confond souvent avec l'Office national des forêts. Alors nous sommes cousins germains, mais eux c'est la forêt, nous c'est la faune sauvage. Donc voilà, à une époque on faisait partie de la même administration, la belle administration des eaux et forêts. Donc voilà, donc tordre le cou à cette... Très souvent on nous dit, ah vous êtes des forestiers, alors c'est pas très loin, mais c'est pas tout à fait ça. Autre cliché, une incompréhension parfois autour du mot chasse. Alors dans Office national de la chasse et la faune sauvage, il y a bien le mot chasse, c'est vrai. Mais comme je vous l'indiquais tout à l'heure, la loi nous demande de faire de l'expertise, nous demande de faire des études et de faire la police, une certaine police de l'environnement. Dans le code de l'environnement, l'activité chasse est codifiée et c'est à ce titre que nous intervenons au titre de la chasse. Et c'est pour cette raison qu'il y a le mot chasse dans nos activités. Nous n'avons pas vocation, comme les fédérations départementales de chasseurs, par exemple, à défendre les intérêts des chasseurs. C'est pas le même rôle. Alors, on travaille avec eux sur un certain nombre d'actions, mais on n'a pas du tout le même rôle que les fédérations de chasse. Un fonctionnement partagé. Alors là, je vais parler de budget, et ça va m'amener à glisser doucettement vers le thème qui nous intéresse. Là, ces deux animaux... Les deux tiers de notre budget proviennent de l'impôt qui est payé par les chasseurs pour pratiquer leur activité. Donc là aussi, le mot chasse a toute son activité, sa signification. Si je veux chasser en France, je dois payer un impôt. Et pour toutes les missions qui tournent et qui gravitent autour de cette activité, cet impôt sert à faire fonctionner notre établissement. Mais il y a un tiers maintenant, et cette part est croissante, du budget de notre établissement qui provient de l'impôt général. L'État nous subventionne de plus en plus. Il faut dire que le nombre de chasseurs a tendance à diminuer également, donc ceci explique peut-être cela aussi. Mais aussi, l'État nous subventionne en partie parce que nous avons des missions autres, d'un intérêt plus global, plus général que celui de la chasse, et il semblait normal que l'État nous subventionne à ce titre, nous aide financièrement à ce titre. Du coup, ça amène à deux grands types de missions. Donc des missions qui sont liées à une activité qu'on va appeler la chasse durable, puisque la loi, quand elle définit l'activité chasse au niveau du code de l'environnement, elle dit bien, et elle parle bien, de chasse durable aussi. Il n'est plus question, il sera de moins en moins question, de prélever des espèces qui sont menacées ou qui pourraient être menacées dans l'avenir. Et puis un autre type de mission, donc des missions un peu plus patrimoniales, on va dire, des actions environnementales plus générales, du type par exemple loutre castor, du type grand hamster, du type loup, lynx, ours. Voilà, on ne va pas parler de toutes ces espèces là ce soir, on en a choisi deux spécifiques, donc qui étaient liées à l'eau et au bois. Donc je passe tout de suite la parole à Sylvain qui va vous parler plus particulièrement de ces deux espèces.
Alors, juste avant d'attaquer sur le castor et la loutre, et puis pour faire le lien avec la première présentation qui était sur les habitats, je voulais d'abord vous dire qu'il n'y a pas que le castor et la loutre qu'on peut retrouver dans les zones humides et qui sont intéressés par les habitats du type ripisylve, etc. On peut avoir, par exemple, tout un tas d'espèces comme on a le campagnol amphibie, par exemple, qui est un petit rongeur qui s'appelait aussi le radeau, sur lequel on se pose pas mal de questions en ce moment, peut-être en voie de disparition à cause de pas mal de modifications. Donc ça ressemble à un rat, hein, si vous voulez, avec une tête de campagnol qui fait une quinzaine de centimètres. Voilà, et qui a besoin aussi de certains milieux aquatiques. On a parmi les mustélidés de la même famille que la loutre, on a le putois également. Le putois qui n'est pas foncièrement aquatique, mais qui va utiliser tous les milieux riverains pour chasser, pour se réfugier. On a également un certain nombre de chauves-souris qui sont extrêmement liées aux zones humides et aux ripisylves. Alors, soit parce qu'elles ont leur gîte dans les arbres, soit parce qu'elles chassent les insectes au-dessus de l'eau. Voilà, donc on a tout un cortège d'espèces qui utilisent ces zones humides. On peut aussi parler des espèces terrestres qui utilisent ces habitats pour se déplacer, pour boire ou pour s'alimenter. On peut trouver du chevreuil, du renard, etc. Voilà, c'était simplement pour vous recadrer l'habitat global avec un cortège d'une bonne quinzaine d'espèces qui est également concernée. Et c'est important d'avoir cette vision globale, même si je vais passer maintenant au castor et à la loutre. Alors je vais commencer par une petite présentation rapide du castor et de la loutre avec quelques grands éléments, parce qu'un peu comme l'ONCFS, il y a des choses que les gens ne connaissent pas forcément, donc on aura un petit peu une culture commune pour après discuter des deux espèces. Donc vous les avez devant vous, c'est encore mieux. Alors on a deux individus plutôt de taille importante ici, une femelle de castor qui faisait 28 kg, qui n'est pas rare sur le bassin à Loire, mais c'est parmi les poids maximum. Et puis pour la loutre, par contre, elle est relativement grosse, elle faisait 12 kg, ce qui est relativement exceptionnel, puisque d'habitude, on est plutôt autour de entre 6 et 8 kg pour les femelles, et jusqu'à une dizaine de kilos pour les plus gros mâles. Voilà, mais ça vous donne quand même une idée, c'est des animaux relativement gros. Alors je reviens au castor, vous avez quelques images ici. Alors le castor, ce qui étonne souvent les gens, je ne sais pas si vous êtes étonnés de voir ici la taille de l'animal, mais il faut savoir que c'est le plus gros rongeur d'Europe. C'est le deuxième au monde après le capybara d'Amérique du Sud. J'ai dit une trentaine, 21 kilos en moyenne pour la plupart des animaux adultes. Ce qui, pour comparaison, c'est le poids moyen d'un chevreuil. Voilà, la bestiole n'est pas faite pareil, mais ça vous donne une idée en termes de comparaison. Et jusqu'à 30 kilos pour les plus gros individus. Alors, c'est une espèce qui, contrairement à ce que pensent certains pêcheurs, est strictement végétarienne. Le castor mange absolument pas de poisson. Donc strictement végétarien, avec des préférences pour la famille des salicacées, donc les saules et les peupliers, même si en réalité il a un régime relativement éclectique. Il est capable de se nourrir en fait de la totalité des espèces végétales que l'on trouve en bord de cours d'eau. Il aura des préférences évidemment en hiver, comme il n'y a plus de végétation herbacée, il va manger principalement des écorces. Mais en été, il va manger de la végétation herbacée, même des herbes subaquatiques, etc. Il peut brouter tout simplement comme des herbivores. Voilà. Et puis sinon, il a une préférence pour tout ce qui est feuilles de saule et de peupliers, et puis petits rameaux. Voilà. Donc son habitat typique, c'est, on va dire, le cours d'eau de plaine et plan d'eau associé. On ne le trouvera pas en altitude dès que ça devient un petit peu torrentueux, parce que ça ne l'arrange pas, autant parce que la végétation rivulaire est plus du tout adaptée et il a besoin de toute façon d'un certain calme. Donc on le retrouvera sur l'étage collinéen, c'est-à-dire en gros une grande partie du bassin de la Loire, excepté le massif central. C'est une espèce qui est territoriale et sociable, c'est-à-dire qu'elle vit en famille, en moyenne 6 individus, et cette famille va vivre sur un linéaire de cours d'eau, ou parfois sur des plans d'eau, mais en linéaire de cours d'eau, elle va vivre sur un territoire relativement bien délimité par des marquages odorants, qu'on appelle des marquages de castoreum, territoire qui fait à peu près entre 500 mètres pour les zones avec énormément d'alimentation et pas trop de densité de population, jusqu'à 3 km de linéaire de cours d'eau pour des rivières moins accueillantes. Voilà, donc une petite différence avec le ragondin, j'en reparlerai après, qui est lui grégaire et beaucoup plus prolifique. On n'a pas d'explosion des populations de castors, même si vous allez voir que sa recolonisation peut donner un peu cette idée-là. Mais localement, on n'a jamais de surpopulation à cause de cette territorialité de l'espèce. En termes de reproduction, les accouplements ont lieu globalement en février pour des naissances au mois de juin, avec 2 à 4 jeunes par an, mais plutôt 2 en moyenne, ce qui est relativement faible en termes d'augmentation de la population. Je reparlerai des cas de mortalité un petit peu plus tard. Voilà pour ce qui est de la reproduction. Alors, son activité est mi-aquatique, mi-terrestre, parce qu'en fait, il va utiliser le cours d'eau pour tous ses déplacements, éventuellement transport de matériaux. Et c'est sur le milieu terrestre qu'il va y trouver son alimentation et également qu'il va y construire son gîte. On voit ici notamment le castor qui se nourrit là, au niveau d'un réfectoire. Donc il a été chargé son alimentation sur terre. Il va se nourrir à la limite de l'eau et de la berge pour pouvoir, pour des questions de sécurité tout simplement, pour fuir plus facilement. Voilà. Et alors, ces mœurs, comme vous voyez sur la photo en bas à droite, castor en train d'attaquer un arbre, il est nocturne et crépusculaire. Il est extrêmement rare d'en voir en plein jour. On peut avoir la chance d'en voir l'été parce que les nuits sont courtes et les castors vont avoir toujours besoin de se nourrir et vont sortir malgré tout vers entre 20h et 21h, donc il fait encore relativement jour. Mais globalement, c'est une espèce totalement nocturne et crépusculaire, ce qui fait qu'en dehors des indices qu'elle laisse, qui sont, comme vous en voyez un ici, qui passent relativement peu inaperçus, il est relativement difficile pour quelqu'un qui ne connaît pas l'espèce d'être au courant de sa présence. Voilà, alors je voulais juste vous montrer une petite vidéo pour voir le bûcheron au travail, pour vous montrer l'efficacité de sa mâchoire et de ses dents. Donc il a une puissance au niveau de la mâchoire de 80 kg, ce qui est le double de celle de l'homme. Alors en plus, c'est du bois tendre. Voilà, donc c'est relativement vite fait. Alors là, vous voyez, on est en soirée aux alentours de 20h, 21h en plein été. Et ensuite vient le travail de... Voilà, il va commencer à débiter la branche, trouver les rameaux. Alors c'est dommage, il manque le son parce que c'est assez sympa. Et il va se nourrir avec ses pattes avant relativement préhensiles, à la fois des petites feuilles et des petits rameaux. Alors vous pourrez venir voir à la fin, je pourrai vous montrer le crâne et vous comprendrez un petit peu mieux pourquoi c'est aussi facile pour lui de couper ce genre de branches. Alors je passe à la loutre, donc une espèce totalement différente puisque c'est un carnivore. C'est de la famille des mustélidés. Alors les mustélidés, on a le blaireau, la belette, le putois, voilà, on a différentes tailles. Et là, on a un membre de la famille des mustélidés relativement important, semi-aquatique pour les mêmes raisons que le castor. Donc avec, il n'est pas totalement aquatique comme par exemple les phoques ou les otaries, semi-aquatique parce qu'il a une partie terrestre également de sa vie. Principalement piscivore, donc je dis carnivore pour le régime global, principalement piscivore puisque effectivement le poisson est le régime de base, mais en réalité en tant que super prédateur, il est capable de s'adapter à un certain nombre d'autres proies, les amphibiens, les oiseaux, les rongeurs, les écrevisses. Voilà. Mais globalement, c'est le régime piscivore qui domine, avec environ entre 700 grammes et 1 kg de nourriture par jour. Alors, elle est moins difficile, entre guillemets, que le castor. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle a une très très grande variété d'habitats. On a eu l'image d'Épinal pendant longtemps de la loutre qui vivait en Auvergne sur le plateau de Mille Vaches. Ça, c'était simplement parce qu'elle avait disparu ailleurs et que c'était ses derniers bastions. Alors, c'était un peu l'image d'Épinal. En réalité, il faut savoir, vous allez voir avec son retour, qu'elle est capable de vivre à peu près n'importe où, même en pleine ville, sur des cours d'eau. Elle est capable également de vivre sur le littoral. Il y en a sur l'île d'Oléron. Voilà. Donc, une très très grande variété d'habitats, à condition, vous allez voir après au niveau de ses exigences, qu'elle puisse trouver son alimentation. Et son gîte. Alors c'est aussi une espèce territoriale qui va marquer son territoire, sauf que contrairement au castor, elle est individualiste, c'est-à-dire que mâles et femelles vont se retrouver uniquement pour l'accouplement pendant quelques jours, une dizaine de jours, et ensuite mâles et femelles vivent sur des territoires différents. Alors vous allez voir, c'est important après en termes de gestion, puisque par rapport au castor qui a un territoire relativement restreint et qui est casanier, la loutre, on peut un peu la qualifier de SDF, c'est-à-dire qu'elle va changer en permanence de gîte et elle a des territoires extrêmement importants avec une variation d'ailleurs mâle-femelle. Les femelles vont avoir un territoire de 10 km, jusqu'à 10 km en moyenne. Les mâles, ça peut monter jusqu'à 40 ou 50 avec un recouvrement de plusieurs femelles. Donc vous voyez que les densités là ne vont pas être non plus énormes et qu'il va y avoir beaucoup plus de mouvement des animaux par rapport au castor sur leur territoire, à la recherche de nourriture notamment. Alors ce qui est aussi assez étonnant, c'est que la reproduction peut avoir lieu en toute saison, même en hiver, et qu'elle va produire 1 à 3 jeunes par an, ce qui est non plus pas beaucoup comme le castor. Donc il suffit qu'on ait des causes de mortalité un peu importantes pour qu'une population s'effondre relativement vite. Ces mœurs sont également nocturnes. Alors j'ai mentionné en France, parce qu'en fait dans le nord de l'Écosse, la même espèce, l'outra, peut être vue en plein jour. On a tendance à penser que c'est un peu une adaptation aussi à la chasse et au piégeage intensif qui a eu lieu et qui a failli faire disparaître l'espèce, et qu'aujourd'hui, certains animaux commencent à revenir en plein jour, comme certains en voient en Auvergne, par exemple, Massif Central et Façade Atlantique, ces deux derniers bastions, comme vous le verrez tout à l'heure. Alors, je voulais vous montrer simplement trois photos, si vous avez la chance un jour d'en voir, pour faire attention aux confusions, parce que la plupart des gens pensent voir des castors ou des loutres, alors qu'en fait c'est souvent du ragondin, une espèce exotique envahissante qui provient d'Amérique du Sud et qui a été introduite en France pour la fourrure et qui s'est retrouvée dans la nature. Voilà. Donc, c'est des images théoriques, mais retenez qu'en gros le castor, on n'a que la tête et la nuque qui dépassent. Alors que le ragondin, beaucoup plus léger, beaucoup plus petit, on va en général voir le dos et jusque carrément presque... Oui, enfin, on voit le dos, la tête et le dos qui dépassent de l'eau. Pour la loutre, c'est plus compliqué parce que comme tout mustélidé, elle est extrêmement agile. Et là, on a une vision de la loutre dans l'eau, mais elle n'arrête pas de bouger. Donc, ne prenez pas ça en compte. Mais au moins castor et ragondin, c'est un critère parmi d'autres pour les différencier. Alors je voulais vous parler du retour du castor et de la loutre pour que vous sachiez pourquoi ces deux espèces-là déjà n'étaient plus là et sont revenues. Beaucoup de gens sont souvent étonnés de savoir qu'on a du castor sur le bassin de la Loire et même ailleurs en France d'ailleurs. Donc je vais commencer par le castor. En fait, le castor a complètement disparu du bassin de la Loire. Alors ses populations ont commencé à régresser dès le Moyen-Âge. Mais en réalité, il a continué à régresser après. Et on s'est retrouvé début XXe siècle uniquement avec quelques dizaines, centaines d'individus sur le bassin du Rhône, dans trois départements, les Bouches-du-Rhône, le Gard et le Vaucluse. Le castor a été chassé et piégé de manière intensive pendant très longtemps, à la fois pour sa viande, parce qu'au Moyen-Âge, le clergé avait classé le castor parmi les poissons à cause de sa queue écailleuse, ce qui permettait de le manger le vendredi. Donc c'était bien pratique. Donc première raison. Deuxième raison, comme beaucoup d'animaux aquatiques, ils ont une belle fourrure. Donc il était chassé aussi pour sa fourrure. Et troisième raison, le castoreum, la substance dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont il se sert pour marquer son territoire, a des vertus similaires à l'aspirine, puisque dans les salicacées, on retrouve l'acide acétylsalicylique qui est l'aspirine. Et donc, à l'époque, ils avaient remarqué que ça soignait tout un tas de maux. Voilà, donc plein de raisons pour que le pauvre animal soit chassé et piégé intensivement et qu'il passe à la limite de la disparition. C'est la première espèce protégée en France en 1909 dans les trois départements que je vous ai cités. Et à partir de là, il a commencé à remonter sur la zone ici en pointillé jusqu'à pour atteindre Lyon dans les années 60. Et ensuite, on avait à cette époque-là un certain nombre d'opérations de réintroduction d'autres espèces. Hein, ça a été valable pour les vautours, etc. Et un certain nombre, notamment d'associations de protection de la nature, ont monté des projets de réintroduction. Donc vous voyez différents points ici. Et ce qui nous intéresse, c'est le point numéro 7 ici sur le bassin de la Loire, ainsi que le point numéro 5 dans la Vienne, qui malheureusement a échoué. Mais les castors que nous avons aujourd'hui en Poitou-Charente et ailleurs proviennent des castors réintroduits sur le point numéro 7. Alors c'était en fait souvent des castors qui provenaient du bassin du Rhône, qui posaient des problèmes de dommages et qui étaient capturés par les collègues du réseau castor de l'ONCFS qui participaient à la réintroduction avec les associations qui géraient ça sur leur site. Donc je vais vous faire un petit historique, je ne sais pas si la couleur passe bien, mais voilà, donc là on est sur la période 74-78. Dans le Loir-et-Cher, on a 13 castors en provenance du Rhône qui sont réintroduits, ça a bien marché, puisque la Loire est un superbe milieu qui correspond tout à fait aux exigences de l'espèce, et les animaux se sont reproduits et ont recolonisé progressivement au cours du temps par l'aval et par l'amont. La Loire dans un premier temps, puis on voit déjà une partie de l'Allier ici en jaune au sud. Ensuite la Loire. On a une deuxième réintroduction ici pour faire passer les castors. On a le barrage de Villeray ici, le barrage de Grandjean dans le département de la Loire. Ça bloquait complètement le retour des castors et la Frappenaloire a réussi une deuxième opération de réintroduction en 1994. Voilà, on a la situation ici 2002, donc vous voyez déjà qu'en Poitou-Charentes, on avait quelques castors en Deux-Sèvres et un petit peu en Vienne. Et voici la situation 2009 avec une vision en linéaire de cours d'eau. avec 2286 km de présence certaine. Alors, à noter, je ne vais pas rentrer dans le détail de la carte, on pourra éventuellement y revenir après si vous avez des questions. À noter que la situation actuelle, la Loire et la plupart de ses grands affluents sont maintenant extrêmement bien colonisés, recolonisés, je devrais dire, puisqu'il y avait du castor partout en France avant qu'il commence à disparaître. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une phase où le castor arrive sur des cours d'eau de plus en plus petits, puisque, comme je vous l'ai dit, l'espèce est territoriale et les jeunes qui veulent s'installer sont obligés de s'installer sur des secteurs d'eau libre. Et les seuls endroits qui restent, c'est des cours d'eau de plus en plus petits. Voilà. Donc vous avez ici la situation de Sèvres et Vienne, mais j'y reviendrai sur des cartes un petit peu plus spécifiques. Alors, parallèlement, la loutre. Donc la loutre a décliné aussi, mais cette fois-ci beaucoup plus tardivement, à peu près pour les mêmes raisons, raisons de fourrure notamment, puisque au siècle dernier, une peau de loutre, c'était quasiment un mois de salaire, ça doublait le mois de salaire d'un instituteur, donc c'était une valeur ajoutée extrêmement importante. Il y avait une grande culture du piégeage, pas que pour la loutre, hein, mais des autres fourrures de mustélidés. Voilà, donc vous voyez en 1850 de la loutre absolument partout, et progressivement, elle régresse, alors dans un premier temps dans les régions très urbanisées, puis progressivement, plus largement, jusqu'à ce qu'on arrive dans les années 70-80 au plus bas du niveau de l'espèce. En 72, ça va un peu vite, excusez-moi, en 72, on a l'interdiction de la chasse et du piégeage, c'est un premier point. Et on a ensuite en 76 la loi de protection de la nature qui a été un pas important même s'il n'y avait pas l'application derrière de la protection et en 81 la protection intégrale de l'espèce. Voilà. Donc les premiers signes du retour de la loutre suite à l'arrêt de son piégeage et de sa chasse c'est à peu près les années 80 et ensuite les spécialistes comme Christian Bouchardy, René Rozou ont commencé à voir des indices de retour de l'espèce à partir de ces deux noyaux qui restaient à savoir le massif central et la façade Atlantique. Vous voyez qu'à cette époque-là, déjà dans les Deux-Sèvres et la Vienne, pour la partie Poitou-Charentes, bassin de la Loire, il en restait encore quelques-unes, mais c'était peu. Voilà, 2001, ça commence à revenir un petit peu. Voici une carte 2005 de la Société française d'études et de protection des mammifères, avec en bleu le contour du bassin de la Loire, simplement pour vous montrer l'importance du plus grand bassin versant français en termes de potentiel de recolonisation de l'espèce et en termes de qualité d'habitat pour sa conservation. Et le travail qu'on a mené, je vous en reparlerai, via le réseau mammifère du bassin de la Loire. Alors on a en rouge la présence certaine de l'espèce, et on retrouve ces bastions, Massif Central et Auvergne et la façade atlantique. En jaune, c'est les secteurs prospectés, mais avec une absence d'indice. Donc on a encore pas mal de marge pour l'espèce. Et puis, là où il y a les plus grosses densités, c'est là aussi on a le plus de mortalité. Les points noirs, c'est les collisions routières, principalement. Et les points verts, c'est les loutres observées en plein jour. Comme je vous le disais, c'est principalement là où il y a les plus grosses densités qu'on voit ce genre de choses. Donc voilà un petit peu les bonnes nouvelles concernant ces deux espèces aujourd'hui sorties du déclin. Alors quelques problématiques à la fois vis-à-vis de ces espèces et on verra après vis-à-vis des activités humaines. Alors quelques cas de mortalité, la cause principale, enfin en tout cas celle qu'on voit, c'est les collisions routières. Quand des animaux essayent de traverser des routes parce que le pont ou le passage de cours d'eau sous la route est mal adapté. Donc c'est principalement les collisions routières. Les erreurs de tir et braconnage, parce que quand on retrouve un cadavre, pas toujours facile de savoir l'origine, mais voilà, il y en a aussi un petit peu. Le piégeage accidentel et l'empoisonnement. Sachant que quand je parle d'empoisonnement, c'est l'empoisonnement sous forme de braconnage, puisque la lutte chimique contre les rongeurs envahissants est actuellement maintenant interdite. Et également la noyade dans des engins de pêche ou des ouvrages hydrauliques. On a par exemple en bas à droite un castor retrouvé noyé dans un engin de pêche. Voilà, tout ça pour vous dire qu'on a un certain nombre de causes qu'on surveille, mais qui ne sont pas forcément inquiétantes, puisque vous avez vu, l'espèce continue à recoloniser, donc c'est un peu une veille sur ces causes de mortalité qu'il faut avoir, mais pas d'inquiétude. Et puis j'ai oublié de vous parler d'une cause aussi naturelle, qui sont les crues, ici la Loire. Les deux espèces sont très bien adaptées à ce type d'événement, mais les jeunes, notamment les jeunes castors, à leur naissance, ne sont pas forcément toujours capables de s'en sortir quand on a des crues de printemps, comme ça a été le cas d'ailleurs ces dernières années. Alors, en dehors des causes de mortalité directe, on a un certain nombre de facteurs diminuant le taux de survie qui peut mener à la mort si jamais il s'est cumulé. La modification et destruction des milieux aquatiques, principalement. Également les travaux d'entretien et d'aménagement des cours d'eau s'ils sont mal faits ou si certaines précautions ne sont pas prises. La pollution de l'eau, alors pour le castor, ça ne joue pas tellement parce qu'en fait, il est végétarien et il ne boit relativement peu globalement. Pour la loutre, une forte pollution ne l'altère pas forcément directement, même si les études écotoxicologiques montrent qu'elle stocke dans ses graisses un certain nombre de polluants, et c'est relativement impressionnant, même des polluants interdits depuis une vingtaine d'années. Mais par contre, si l'écosystème est relativement dégradé par la pollution de l'eau, par exemple la population piscicole, ça peut réellement lui poser des problèmes. Voilà, les barrages, principalement pour le castor, parce qu'on s'est aperçu avec le temps que la loutre avait quasiment passé tous les barrages, soit en grimpant, soit en contournant par les têtes de bassin. Le castor, lui, vous voyez, c'est pas un coureur de fond. Il est très à l'aise dans l'eau, mais il aime pas s'éloigner de la berge pour des questions de sécurité. Et il est relativement peu apte à faire des kilomètres sur la terre ferme. C'est un très grand grimpeur sur des berges pentues, mais un barrage comme ça, il est hors de question qu'il s'amuse à monter dessus. Voilà, donc ça, c'est un problème en termes de continuité écologique. Et puis le dérangement, bon, je le note plutôt à titre d'information de quelque chose à surveiller. On n'a aucune étude qui nous démontre qu'on a un problème de dérangement vis-à-vis de ces espèces qui peut les mettre en péril. C'est très difficile à démontrer. Et puis, je dirais aussi que ces espèces-là peuvent nous surprendre, puisque par exemple, on a du castor en centre-ville d'Orléans, on a de la loutre en centre-ville de Limoges, alors qu'il y a du bruit, il y a des voitures qui passent, il y a des gens. Mais disons que là, c'est les animaux qui ont choisi cet endroit-là parce qu'ils ne sont pas dérangés directement. Donc ça peut nous surprendre. Ce qui peut les déranger directement, c'est quand on a un afflux de touristes, par exemple l'été, directement au-dessus d'un terrier en permanence, peut y avoir un impact, mais qui n'est pas mesurable actuellement. Voilà. Alors les problématiques qui touchent directement le sujet forêt, c'est évidemment les problèmes liés à l'alimentation du castor, les dommages de castor. Donc lors des réintroductions, le ministère de l'Environnement à l'époque avait compris qu'avec le retour de cette espèce, il risquait d'y avoir des conflits avec les activités humaines, notamment la populiculture, et il a demandé à l'ONCFS de bâtir un réseau de correspondants castor dans les années 80 pour suivre statistiquement les dommages, conseiller les plaignants, et puis suivre aussi la répartition de l'espèce, donc les cartes que vous avez vues. Donc là, spécifiquement sur le bassin de la Loire de 1994 à 2005, vous avez le nombre de constats techniques de dégâts. Alors, constats techniques de dégâts, c'est suite à plainte, bien sûr, suite à plainte d'un riverain. Donc vous voyez par département que ça a augmenté progressivement. Aujourd'hui, au niveau national, on est à 40, entre 40 et 50 constats par an, ça n'augmente plus. Parce que les gens qui connaissent le castor maintenant depuis 10, 20, 30 ans ont appris à vivre avec. Et c'est plutôt sur le front de colonisation de l'espèce, lorsque les gens découvrent l'arrivée du castor, ne savent pas encore comment faire face, qu'il y a des soucis. Et puis vous les allez voir dans certains cas de vallées inondables en particulier. Je reviens, voilà. Et donc, voilà un petit peu le constat global en termes de retour de problématiques. Maintenant, je voulais revenir un petit peu plus sur l'aspect habitat, zone humide, et vous parler de comment prendre en compte le castor et la loutre dans la gestion de ces cours d'eau et de ces zones humides pour répondre à leurs exigences écologiques et minimiser au maximum les cas de conflit avec les activités humaines. Alors, je vais commencer par la réglementation pour qu'on soit tous bien d'accord là-dessus. Depuis déjà pas mal d'années, castor et loutre font partie de la liste des espèces protégées. Donc, on n'a pas le droit de tuer notamment les individus. Mais depuis le 23 avril 2007, s'ajoute à cette interdiction de destruction des individus une protection du milieu. On le voit ici en gras, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux sont interdites. Ça sous-entend qu'on ne peut pas toucher un barrage de castor, un terrier, un gîte de castor ou un gîte de loutre. Voilà, ce qui pose évidemment quelques problématiques de gestion sur lesquelles nous, on intervient à l'ONCFS, à la fois en termes de police, comme vous l'a dit Gérard, pour appliquer la réglementation, et aussi sur le plan technique pour aider, pour trouver des solutions en conflit. On a certaines réponses, on n'a pas toutes les réponses encore à certaines problématiques de castor, on pourra en rediscuter après. Mais c'est important de savoir, là, deux espèces protégées, dont une grande partie du milieu l'est également. Alors, quels sont les contextes et enjeux à avoir en tête vis-à-vis de ces deux espèces? Mais c'est valable aussi pour d'autres. Hein. Il faut avoir en tête les fonctions et les besoins élémentaires à satisfaire sur le domaine vital de ces deux espèces. Donc, domaine vital pour le castor qui est relativement restreint en linéaire de cours d'eau, beaucoup plus important pour la loutre. Donc, on a bien sûr la nourriture, ça paraît logique. On a le gîte. On a la possibilité pour l'espèce de se reproduire, donc qu'elle soit dans de bonnes conditions, ce qui veut dire la sécurité des jeunes et des adultes, mais également les possibilités de déplacement pour que les mâles et les femelles puissent se retrouver puissent se reproduire. Voilà. Et le tout est globalement relativement lié au rôle de la végétation. Alors vous allez voir évidemment pour l'alimentation pour le castor, mais pour la loutre c'est plutôt le repos et puis un terrain de chasse. Et puis lié à tout ça, ce qui peut déranger, c'est également les activités humaines. Alors j'ai pris ce dessin un peu schématique de cours d'eau pour y reprendre un petit peu, cas par cas, les différentes exigences en habitat du castor et de la loutre. Alors en termes de ressources alimentaires, je vous l'ai dit, le castor est végétarien. Donc ce qui est important, c'est la bande de végétation riveraine que vous voyez ici en couleur, si possible en saules et peupliers. Alors l'idéal, comme tout à l'heure, c'est plutôt 20-30 mètres dans le meilleur des cas. Ce n'est pas valable que pour le castor, c'est pour tout le cortège d'espèces qui est présent. Mais nous, on considère que conserver une bande de végétation buissonnante et arbustive d'au moins 5 mètres de large est un minimum. Voilà. Donc, quand on a des plaignants qui ont des problèmes de dommages de castor sur arbre, on commence déjà par regarder quel est l'état de la végétation rivulaire. Et la plupart du temps, vous allez le voir, c'est un peu le souci. Donc voilà, là c'est l'extrême positif. On est sur un bord de Loire, belle ripisylve de saules et de peupliers. Et on a un superbe territoire de castor avec un terrier hutte, j'y reviendrai après, qu'on distingue ici. En termes de gestion, ce qui peut être fait aussi, puisqu'on a d'autres enjeux parfois sur les cours d'eau, ça peut être le passage des crues et l'obligation de gérer et d'enlever de la végétation. Et ben ici, typiquement, toute la végétation a été enlevée au milieu ici, mais on a laissé une bande rivulaire pour l'alimentation du castor. Alors ici, c'est pris en Sologne, c'est le cas typique de ce que nous, on ne conseille pas et qui est voué à avoir des problèmes de conflit avec le castor si l'espèce arrive. C'est toute la peuplerie ici plantée à ras de la berge et évidemment, inévitablement, si le castor passe dans le secteur, il va s'attaquer au moins au minimum aux deux premières rangées de peupliers. D'où l'importance de la bande boisée. Les résultats des statistiques du réseau castor montrent qu'on a un maximum de constats de dommages en absence de ripisylve. Ensuite, ça commence un tout petit peu à baisser, mais quasiment pas, si on a une ripisylve entre 0 et 5 mètres. Et enfin, après, à partir de 5-10 mètres, c'est ce que je vous disais, les dommages diminuent fortement. Pourquoi ? Parce que le castor a de l'alimentation directement, l'alimentation naturelle directement à proximité. Et il n'a pas besoin d'aller s'alimenter dans du peuplier planté plus loin. Voilà, c'est le premier point. Ceci dit, quand vraiment ce n'est pas possible, il y a un certain nombre de techniques qui ont été testées, donc notamment du manchon grillagé comme ça. Je ne rentre pas dans les détails, du système anti-remonté, des grillages, des clôtures électriques. Voilà quelques images. Et tout ça, suivant les résultats qu'on a eus, est totalement efficace si c'est bien posé. Reste le problème que l'installation de ces protections est liée au financement du propriétaire. Il n'est pas prévu de financement par l'État ou parfois par les collectivités, mais en général, ça n'a pas marché. Voilà. Mais le mieux, c'est encore d'avoir un habitat le plus naturel possible. Et on a un cas particulier où là, on ne peut absolument rien faire, les basses vallées inondables, où on peut avoir pendant plusieurs semaines de l'eau à 2-3 mètres de haut. Et ce qu'on trouve après, c'est que du coup, le castor a été coupé des arbres à la hauteur de l'eau au moment de l'inondation. Donc là, on a quelques-uns, mais on a eu parfois des champs de peupliers coupés, 10, 20, 30 peupliers coupés à cette hauteur-là, tout simplement parce que son alimentation était sous l'eau. Il a bien été obligé de couper des arbres à la hauteur qu'il avait. Donc là, on n'a pas de solution plus que ça. Alors la loutre, c'est ses ressources alimentaires. Donc vous les voyez ici, relativement éclectiques, mais principalement poissons. Ce qu'il lui faut, c'est des ressources alimentaires en quantité suffisante toute l'année. Par exemple, au printemps, elle va manger énormément de batraciens, à l'époque du frais des batraciens. En hiver, quand il y a des forts hivers, elle va se rabattre aussi sur des rongeurs ou des oiseaux. Et puis sinon, à d'autres périodes, ça pourrait être des insectes ou, par exemple, beaucoup de... Beaucoup d'écrevisses américaines, je ne sais pas si vous êtes au courant des invasions d'écrevisses américaines, je n'entre pas dans le détail, mais dans le Cantal, elles mangent quasiment plus que ça. C'est assez impressionnant. Voilà. Donc elles s'adaptent en fait, en tant que super prédateurs, elles s'adaptent à la ressource alimentaire la plus disponible dans le milieu où elle est, avec des spécificités. Plutôt l'anguille, par exemple, dans les marais de l'Ouest, ce sera plutôt de la truite en Auvergne, etc. Donc pour elles, ce qu'il lui faut en termes d'éléments à préserver ou conserver, c'est... C'est pas forcément une rivière homogène d'un bout à l'autre, c'est vraiment une richesse avec une alternance de zones ombragées éclairées pour les poissons, pour diversifier les habitats de ces proies. C'est des mares et puis des dépressions humides, notamment pour les amphibiens, des encombres et du bois mort qui servent de refuge aux poissons. Enfin bref, c'est vraiment diversifier le milieu le plus possible et favoriser les amphibiens dont elles se nourrissent de manière un peu secondaire après les poissons. Concernant les gîtes et abris, à peu près tous les mammifères aquatiques ont un peu ce type de gîte, souvent sous un arbre parce que ça renforce un peu le terrier, avec une entrée sous l'eau et, en tout cas pour le castor et la loutre, une aération ici. D'où l'importance là d'arrêt épicylve et des arbres en termes de gîte. Alors ce qu'il faut pour le castor, c'est des berges fouissables puisque lui va creuser son terrier. La loutre est aussi capable de le faire, mais elle préfère utiliser les gîtes souvent déjà creusés. Voilà. Alors le castor, lui, il a une spécificité, c'est comme il est bâtisseur, si le terrier s'abîme un petit peu, il va rajouter des branchages dessus et le simple terrier, initialement, va se transformer en ce qu'on appelle un terrier hutte. Voilà, on a un petit peu une vision ici avec l'amas de branchages avec la chambre qui va se situer un peu au-dessus. Et puis si vraiment il n'y a pas de berge, c'est l'image d'Épinal du Canada, mais le castor d'Europe est capable de le faire aussi, c'est une hutte complète avec uniquement un amas de branchages. Alors concernant la loutre plus spécifiquement, comme je vous l'ai dit, elle est un peu SDF, elle change en permanence quasiment toutes les nuits presque d'abri. Donc elle a besoin d'une richesse de gîtes et d'abris très variée. Je vous l'ai mis en bas, maintien d'un chapelet dense de ses micro-habitats, même dans des milieux relativement dégradés, il faut que régulièrement on ait un roncier, on ait un vieil arbre avec des racines, voilà, de manière espacée. L'idéal étant d'avoir en fait un beau milieu continu, mais ce n'est pas toujours le cas, et c'est ce qui explique qu'elle est capable de s'adapter même à des milieux dégradés, à condition qu'elle y trouve un chapelet comme ça de micro-habitats. Les roselières aussi, elle aime beaucoup les roselières. Je vous parlais aussi des déplacements et sécurité. Vous l'avez vu sur le retour de ces deux espèces, c'est évidemment les cours d'eau qui sont principalement utilisés pour le déplacement des animaux. Concernant la gestion des niveaux d'eau, si jamais il n'y a plus assez d'eau, le castor, ça ne lui plaît pas en termes de sécurité, il ne peut plus se déplacer. Donc il construit des barrages. On a ici un cas d'un petit affluent dans le Loiret, avec 8 barrages de suite sur 1,3 km qui vont lui maintenir ce corridor en eau jusqu'au vallon. Voilà. Ce qui pose parfois quelques problèmes de conflit avec des inondations de parcelles agricoles, etc. Ce qui est important aussi, c'est de maintenir, notamment pour la loutre, les corridors en tête de bassin versant entre, par exemple, ici, une zone humide et le cours d'eau en lui-même. Et je vous le disais tout à l'heure, ce qui est important du coup pour s'adapter, pour effacer les problèmes de mortalité routière notamment, ou les passes, ou les problèmes de barrage. Il y a un certain nombre d'ouvrages de passage à loutre et à castor et à d'autres espèces de mammifères qui existent et qu'il faut réussir à adapter aux infrastructures existantes ou en prévision. Également un encadrement des usages. J'ai parlé un petit peu tout à l'heure des espèces exotiques envahissantes comme le ragondin et le rat musqué qui font l'objet d'une régulation par piégeage, par tir. Là, ce qui est important, c'est d'informer les gens qui font cette régulation des problèmes de confusion qui peut exister avec ces deux espèces protégées et puis encadrer un certain nombre d'activités qui peuvent déranger plus ou moins les deux espèces concernées. Alors, je voulais finir... Je voulais vous parler un petit peu du coup des hommes qui s'occupent de ces deux espèces, parce que vous avez vu des cartes, je vous ai parlé d'un certain nombre de connaissances. Derrière tout ça, on a à l'ONCFS, avec un certain nombre de partenaires, des hommes qui essayent de travailler ensemble pour améliorer le suivi de ces espèces et leur conservation. Donc moi j'ai animé pendant presque 6 ans le réseau mammifère du bassin de la Loire, qui est piloté par l'ONCFS, et je voulais vous montrer en quelques diapos comment fonctionne un réseau de suivi de ces espèces de manière très rapide. Alors pourquoi ça s'est monté ? C'est que tout simplement, les gestionnaires du bassin versant, bassin de la Loire, donc ça comporte autant les gestionnaires de Poitou-Charentes que d'Auvergne que de région centre, avaient un certain nombre de problématiques sur les espèces que vous voyez là. Et malheureusement, ils n'arrivaient pas vraiment à répondre parce qu'il y a une multitude d'acteurs. Pour ceux qui connaissent un peu le monde de l'environnement, il y a un nombre d'acteurs très important et chacun travaillait un peu dans son coin, ce qui ne permettait pas notamment aux décideurs, à l'administration ou aux collectivités d'avoir une vision globale permettant de prendre les bonnes décisions. On a aussi dans la bibliographie un certain nombre de documents scientifiques, mais non reliés les uns aux autres. Voilà. Et donc l'idée est venue en 2005 de monter un réseau. Alors l'ONCFS avait déjà un réseau Castor, comme je vous l'ai expliqué, mais puisque la thématique mammifères aquatiques par rapport aux zones humides avait été intéressante, et ben voilà, on a essayé de travailler sur toutes ces espèces-là. Alors avec plusieurs objectifs, évidemment de la coordination, parce qu'il y a énormément de monde, il y a des dossiers financiers, l'acquisition de connaissances, notamment par rapport à la répartition des espèces, acquisition de connaissances qu'on diffuse ensuite et qu'on partage avec à la fois les professionnels, mais aussi, par exemple, les élus, les gestionnaires qui ont besoin de prendre en compte la présence de ces espèces dans leur gestion, dans leur milieu. Et puis aussi un peu d'appui technique, comme les problèmes de barrage, etc. Alors nous, en interne à l'ONCFS, alors moi, je ne vous l'ai pas dit, Gérard est sur la région, l'interrégion Poitou-Charente-Limousin. Moi, en fait, je suis à Orléans, à la délégation interrégionale Centre-Île-de-France, et je travaille avec tous mes collègues, enfin, je travaillais, puisque j'ai changé de poste, je travaille sur les étangs depuis le 1er janvier, mais je travaillais avec toutes les autres délégations interrégionales pour essayer de coordonner les différentes actions. Donc ça paraît pas grand-chose, mais c'est déjà un gros boulot en interne d'un établissement comme celui-ci. Ensuite, il faut aller chercher des partenaires, alors à la fois des partenaires financiers, notamment l'Europe, ainsi que des financements État via un grand programme sur la Loire qui s'appelle le plan Loire Grandeur Nature. Et puis ensuite, tout un tas d'acteurs, parce que nous, on était spécialistes du castor, mais pas forcément de la loutre. Alors, on a des associations de protection de la nature, par exemple, qui connaissaient bien la loutre. On a de plus en plus des techniciens de rivière qui sont intéressés. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a nos collègues de l'ONEMA, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, avec lesquels on travaille également sur les aspects habitats, les conservatoires d'espaces naturels. Enfin, bref, c'est un gros boulot qui est assez éloigné, finalement, des espèces en elle-même, mais qui est absolument indispensable si on veut travailler de manière efficace. Voilà, donc tout ça nous permet d'acquérir des connaissances sur loutre, castor, espèces invasives, etc., de faire un petit peu d'appui technique à la fois sur du repérage de terriers sur la Loire, de la gestion de barrages de castor avec des siphons, et de diffuser tout ça avec des mallettes pédagogiques, des expositions comme vous avez dehors, les animaux, des stages de formation. Un site internet d'ailleurs sur lequel www.centre-de-ressources-loire-nature.com sur lequel vous retrouverez les cartes castor et loutre en direct que je vous ai présentées. C'est des cartes interactives sur lesquelles on peut zoomer et vous pourrez retrouver la répartition des deux espèces. Alors je voulais vous montrer l'exemple des Deux-Sèvres. Puisqu'en fait, dans chaque département, chaque région, on a des collègues qui suivent sur le terrain avec des partenaires les espèces. Mais l'exemple des Deux-Sèvres est très intéressant, puisqu'ils sont un peu pilotes à l'échelle du bassin de la Loire en termes de dynamique d'acteurs. Ils arrivent vraiment à travailler bien ensemble. Et je voulais vous montrer un peu, très rapidement, le temps que ça prend en fait, de faire travailler les gens ensemble pour simplement suivre deux espèces comme le castor et la loutre. Alors, il se trouvait... Je passe. Voilà, c'est Johan Trimoreau, le chef de brigade du service départemental des Deux-Sèvres, qui m'a fourni sa présentation. Voilà, donc la naissance du réseau, ça démarre en 2008. Donc on a une réunion d'information, tout simplement, un peu comme je le fais là. On a ensuite un certain nombre de réunions de travail, tout simplement parce que les gens ont des manières différentes de travailler. On ne suit pas de la même manière le castor et la loutre, donc il faut se retrouver. Il faut comparer un peu la manière de travailler. Il faut sortir ensemble sur le terrain pour voir comment on voit les choses. Voilà, plusieurs sorties, vous voyez, ça prend du temps. Moi, avec le RED, j'avais organisé un stage d'une semaine sur ces espèces-là, Argenton-les-Vallées, puisqu'on a la chance que la loutre soit revenue sur l'Argenton et le castor de manière encore peu importante, mais également. Voilà, donc des cours du terrain avec René Rozou, qui est le spécialiste français de la loutre, avec Christian Bouchardy, qui est au Muséum d'Orléans, qui nous montre ici des traces de loutre. Voilà, et puis des problématiques de barrage également dans l'Indre-et-Loire. Voilà, donc ça a permis de créer un petit peu une communauté dans le nord de Sèvres avec les techniciens de rivière qui étaient plutôt initiateurs au début du projet. Nous, ONCFS et autres acteurs, ainsi que les autres acteurs associatifs, on s'est ajoutés à eux pour dynamiser tout ça. Voilà, on a un certain nombre d'acteurs ici, je ne les ai pas tous mis. Voilà, donc des partenaires, techniciens de rivière, des associations, des administrations, ONEMA, je l'ai déjà cité, le Conseil général, des conventions de partenariat, donc tout ça c'est lourd. Tout à l'heure, Gérard, vous parlait de, des personnels administratifs à l'ONCFS. Bon, et tout ça, est indispensable pour que ça fonctionne. On a recueilli les données pour faire des cartes collectives. Et voilà, ça nous donne ça sur le castor, sur le réseau hydrographique. Alors ça, le pointillé, c'est le bassin de la Loire. Hein. Donc on a en rouge la présence certaine dans le Maine-et-Loire, notamment sur la Loire et sur le Touet, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et puis on doit avoir l'Argenton en bleu en présence probable. Donc vous voyez que le castor est tout juste en train d'arriver dans les Deux-Sèvres. Pour le moment. Alors ça, c'est du 2009. Il a dû progresser. Je n'ai pas vérifié les cartes 2010, mais il a dû avancer un petit peu. Et pour la Vienne aussi, le castor a avancé. Il a passé le barrage de Châtellerault il y a déjà quelques temps. Et il va continuer à progresser tout doucement. Et puis pour la loutre, alors on voit un petit peu moins bien, mais la loutre est également présente sur l'Argenton, sur le Touet. Et si je ne dis pas de bêtises, à gauche, c'est la Sèvre nantaise, c'est ça ? Voilà. Donc sur la partie bassin de la Loire, on a déjà repéré grâce à toute cette organisation et ce travail collectif, il y a eu un gros travail de terrain de fait et d'harmonisation des protocoles, etc. Ça nous permet d'avoir une meilleure connaissance de la présence de ces espèces pour qu'elles soient prises en compte au niveau de la gestion. Alors évidemment, je n'ai pas le sud du département parce que c'est que bassin de la Loire, mais sachez qu'il y a également historiquement de la loutre dans le sud. Voilà. Et donc ça continue depuis, je passe vite, hein, c'est pas le plus intéressant, c'était pour vous montrer. Alors depuis maintenant, ils font des prospections collectives, au lieu de faire ça chacun dans son coin, ce qui en termes de financement public est quand même un petit peu dommage, et en termes d'échange de compétences. Donc maintenant, ils font carrément des prospections collectives. Alors au début, il y avait 10 participants, après 26. Voilà, donc il faut aller chercher un petit peu dans tous les coins, on échange les informations, on sort les canoës, on trouve des indices. Et maintenant, c'est très efficace parce qu'ils ont fait l'année dernière notamment 155 km en une journée avec 12 équipes. Ça permet en plus d'échanger. Vous voyez les collègues dont parlait Gérard en uniforme qui en plus peuvent faire un petit peu de police de l'environnement avec les collègues de l'ENEMA, de la police de l'eau. Donc, c'est des échanges relativement intéressants qui ont permis de faire un bilan. Vous voyez 135 indices de présence de loup trouvés dans la journée. Bon, il n'y avait pas de castor, mais c'est une information quand même. Voilà. Alors, je voulais juste finir. Donc voilà, actualisation des cartes. Alors ça continue encore maintenant cette année, hein, ils sont bien partis, on va prendre exemple sur eux, sur d'autres départements, ils ont de l'avance, hein, et puis on va pouvoir faire d'autres espèces, peut-être même avec eux maintenant qu'ils ont bien démarré. Ils sont partants, voilà. Donc vous voyez, en plus, on envoie des emails, ils s'envoient des emails pour partager les infos. C'est relativement nouveau, mine de rien, entre acteurs de l'environnement. Et ils ont prévu d'agrandir le réseau à l'ensemble du département, notamment avec le Marais Poitevin. Voilà. Alors une plaquette est en préparation notamment. Donc voilà, vous voyez un petit peu tous les différents corps, les associations, les établissements publics, les techniciens de rivière, des différentes collectivités qui sont présents. Et puis je voulais vous montrer les premières photos des loutres en Deux-Sèvres, puisqu'avec les financements Plan Loire, j'avais acheté un piège photo numérique. Je leur ai prêté pour qu'ils le testent, parce qu'on a beau savoir qu'il y a de la loutre en termes de communication, des crottes et puis des empreintes, ça parle à personne, et notamment pas aux élus ni aux décideurs. Alors là, on a la preuve réelle, si certains en doutaient encore. Alors sur ça, là, elle n'est pas très belle. C'est pris, c'était quand ça ? C'est le 13 octobre 2010 à 1h du matin, sur l'Argenton. Alors là, on la voit un petit peu mieux, la même nuit. Et le mieux, c'est deux loutres, qu'on voit pas forcément, on distingue une loutre à droite et celle au milieu, le 26 octobre à 5h du matin. Voilà. Donc pour ceux qui doutaient encore de la loutre en Deux-Sèvres, on en a la preuve. Voilà, j'en ai fini, j'espère que je suis dans les temps. J'ai dû déborder un petit peu, logiquement.
On a senti un discours très rapide sur la fin.
D'accord. Donc si vous avez des questions sur les deux espèces, parce que je ne suis pas rentré dans les détails sur leur biologie, sur l'historique, sur la gestion, n'hésitez pas. Espérant que j'arrive à répondre.
Oui, non, j'ai envie d'associer à tout ce que tu viens de dire et à ce qu'on a vu avant sur les habitats. Il y a une autre espèce qui typiquement fréquente les mêmes milieux, mais qui est encore beaucoup plus rare et beaucoup plus mince. Et malheureusement, c'est le vison d'Europe, qu'on a encore chez nous, mais qui est vraiment sur le fil du rasoir. Et malgré la qualité de certains milieux, de certains habitats, il y a eu des échanges il n'y a pas longtemps avec les Espagnols qui ont du vison d'Europe sur des endroits absolument infects. Des petits cours d'eau minables en pleine zone agricole, il y a du vison, et nous on a des habitats superbes, style Desta de la Lère, etc., le nord du bassin d'Arcachon, y compris en Poitou-Charentes, et on a presque plus de vison. Mais globalement, toutes les mesures qu'on prendra en faveur de la loutre et du castor vont bénéficier aux visons. C'est aussi qu'on on parle un peu d'espèces parapluies, c'est-à-dire la protection dont bénéficient ces espèces-là bénéficie à tout un cortège d'espèces. Donc, pour parler habitat aussi rapidement, ce qui est intéressant dans ce qu'on a vu là, c'est que le castor impacte les habitats. Il recrée des habitats, des mini-zones humides, chose que ne fait pas la loutre. Mais ça veut dire aussi que quand on protège une espèce, incidemment aussi, on a une action sur les habitats et vice-versa. Donc je crois que ça c'est extrêmement important. On ne peut pas séparer l'espèce de l'habitat. On ne peut pas séparer l'habitat de l'espèce. Enfin voilà, c'est vraiment une gestion concertée entre différents acteurs. D'ailleurs, j'espère que dans la prochaine diapo, on aura les logos des CRPF, qui sont aussi des établissements publics. Mais parce qu'on a un énorme travail à faire de vulgarisation, de pédagogie auprès des propriétaires. Et je dois dire que normalement, il est en veille depuis quelques temps, mais avec Vienne Nature, il y a eu un. On s'est dit qu'il fallait faire un comité ou un conseil de vigilance un petit peu pour aller au devant des préoccupations ou des appréhensions des gens. C'est-à-dire qu'éviter que la rumeur se répande comme quoi, ça y est, on a des dégâts de castor, qu'est-ce qui va se passer demain, etc. Donc il y a un gros travail aussi de prévention à faire par rapport à tout ça, quoi.
Oui, tout à fait, d'où l'importance du suivi de l'espèce, puisque comme je le disais, là où on a des problèmes de conflit avec des activités humaines, notamment populiculture, c'est sur le front de colonisation, là où les gens ne sont pas habitués à vivre avec l'espèce. Et c'est important pour nous de mettre la priorité en termes de moyens humains sur la détection de ce front de colonisation, parce que ça va permettre de désamorcer le plus possible d'éventuels conflits. Juste pour revenir sur le vision d'Europe, je ne suis pas spécialiste de l'espèce, mais il me semble aussi que malheureusement, la souche française a quelques soucis en termes de génétique, et que ça explique aussi que malgré des milieux parfois, en tout cas en apparence, bons, l'espèce continue à régresser. Voilà, mais voilà, c'est ça. À cause probablement d'une pauvreté génétique de l'espèce. Ce qui n'est pas le cas de le castor, puisque vous l'avez vu, 13 individus en provenance du Rhône. Alors on ne les compte pas, les castors, parce qu'on considère que ça ne sert pas à grand-chose et ce serait trop coûteux. Mais aujourd'hui, on a plusieurs milliers de castors sur le bassin de la Loire avec 13 individus au départ. Donc là, coup de bol, pour le moment, ça marche. Et alors pour revenir sur l'habitat, effectivement, je n'ai pas trop parlé parce que vous n'en avez pas encore énormément au Poitou-Charentes, mais on a des solutions qui marchent à 100% en termes de protection sur les arbres, même si, bien sûr, le premier conseil, c'est d'avoir plutôt retrouvé un habitat de bonne qualité. Mais on commence à avoir des soucis avec les barrages de castors, puisque, comme je vous l'ai dit, là où il y a des grosses densités sur les fleuves et ses grands affluents, le castor s'installe sur des cours d'eau de plus en plus petits, et il a besoin de faire des barrages pour sa sécurité, son déplacement. Évidemment, ça inonde. Alors du point de vue biodiversité et du point de vue des politiques publiques actuelles, le Grenelle, la directive 4 sur l'eau, c'est plutôt une bonne chose parce qu'on retrouve des zones humides. Le castor recrée entre guillemets gratuitement des zones humides qu'on a perdues, avec une arrivée relativement rapide, si on ne touche pas au barrage de castor, de toute une faune aquatique liée à ces plans d'eau, odonates, végétation, qui sont assez fantastiques. Mais par contre, évidemment, on a un conflit direct avec le riverain. Malheureusement, comme dans la présentation précédente vis-à-vis des agriculteurs. Donc on a un gros travail à faire pour trouver des solutions, principalement via l'habitat, puisque souvent, sur pas mal de peuplerées où on a des problèmes de castor, quand on reprend l'historique, eh ben avant c'était des marais, c'était des zones humides. Le castor y a été présent il y a très longtemps. Là, il revient, donc on a un vrai conflit avec cette activité économique. Donc voilà, là aussi, un peu comme sur le réseau, il faut se mettre tout le monde autour de la table pour trouver des solutions, souvent au cas par cas. Hein, c'est dur de trouver une solution qui va correspondre à tout le monde, mais c'est encore une fois l'habitat, à mon avis, qui sera la solution finale et pas bêtement que la protection. La protection, ça ne permet pas aux gens de progresser, quoi. Et puis en plus, ça coûte de l'argent aux propriétaires. Voilà.
Est-ce qu'il y aurait une dernière question peut-être ? Parce qu'il y a déjà quelques personnes qui sont parties, donc on ne va peut-être pas faire fuir tout le monde avant la fin. Je ne sais pas s'il y a une question sur la dernière présentation, la loutre et le castor.
Vous avez parlé du castor européen, enfin, moi je suppose. Quelle est la différence avec le castor américain ?
Alors oui, c'est vrai que j'ai oublié de dire ça. Il y a deux espèces de castors au monde. Le castor canadien qui vit en Amérique du Nord, Canada et États-Unis, et le castor d'Europe qui est présent sur tout le continent européen, quasiment jusqu'en Mongolie. Alors, la différence, c'est le nombre de chromosomes, sauf que ça, ça se voit pas vraiment. Extérieurement, on peut très difficilement faire la différence, honnêtement. Il y a quelques petites différences pour les spécialistes, et encore, après, c'est sur la forme du poil, éventuellement, si on récupère des poils, et sur la génétique, qu'on peut y arriver. Et donc, là où ça pose un problème, c'est que malheureusement, on a eu du castor canadien d'introduit dans les pays du nord de l'Europe, Russie, Finlande, etc., et que le castor canadien est un tout petit peu prolifique en termes de reproduction, et qu'il est en train de supplanter dans ces pays-là le castor d'Europe. Alors nous, la situation en France, elle est pour le moment relativement positive, puisque dans l'Yonne, on a eu dans les années 80 probablement, le parc de Boutissin, qui a laissé échapper des castors canadiens. Heureusement, à cette époque, les gens étaient encore réactifs. L'ONCFS, avec certains spécialistes, ont réussi à les récupérer. Parce que sinon, on était vraiment mal parti. Hein, parce qu'une fois qu'une population se crée, on ne peut pas faire la différence avec du castor d'Europe. Ça aurait posé d'énormes problèmes. C'est le seul exemple, je crois, d'éradication d'espèces exotiques envahissantes. On en entend beaucoup parler. On est assez mauvais en France pour le moment pour réagir à ça. Ben, à l'époque, ça a marché. Donc aujourd'hui, sur le territoire français, il n'y a que du castor d'Europe, normalement. Mais attention, via le Luxembourg, avec potentiellement une arrivée de castor canadien lâché par là-bas. Et parfois, vis-à-vis de la Belgique, aussi quelques doutes. Donc on est très, très vigilant dès qu'on entend parler de ça, parce qu'il faut extrêmement rapidement réussir à identifier les animaux pour tout de suite agir, parce qu'après, ce sera trop tard. Et le risque, c'est qu'on perde notre souche génétique de castor d'Europe si le castor canadien envahit. Voilà. Non, ils ne peuvent pas se reproduire entre eux pour cette différence de chromosomes. Je n'ai plus en tête, c'est 48, 5, je ne sais plus exactement. Mais heureusement, parce que si en plus ils pouvaient se reproduire entre eux, là, on serait encore plus mal barré. Parce qu'une fois qu'il y a des hybrides, comme c'est le cas chez le chat sauvage ou d'autres espèces, alors là, après, c'est fini, quoi. On ne peut plus agir.
Je vous propose qu'on s'arrête là pour la soirée. Merci à vous, messieurs.
Merci à vous.
Pour ces propos qui sont plutôt encourageants sur le retour de la loutre et du castor et la protection donc des zones humides, donc dans le cadre de cette journée mondiale des zones humides. Merci à vous d'être venus.
Moi, je voudrais juste remercier Sylvain donc, d'être venu nous prêter coup de main, parce qu'on aurait pu, en boîte ou charente, nous, au niveau de la délégation régionale, intervenir, mais ce n'était pas notre spécialité. Donc, merci à Sylvain d'être venu d'Orléans. Ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il a dit qu'il allait s'occuper d'une autre activité, un pôle étant continentaux sur lequel on va travailler à l'ONCFS, et il n'a pas dit qu'il était remplacé par Emmanuel Sarin, donc qui prend le relais sur son poste. Voilà.